Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hold on, everybody. Here it comes.
Spotzl, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 80. Ici Richard Delhomme. Dans cet épisode, je discute avec Stéphane Brognard, et comme on dit dans le jargon, Stéphane, c'est un client. Dixième de l'Ultra Trail du Mont Blanc, auteur d'une traversée de l'Atlantique à la rame au printemps dernier, Stéphane va découvrir le monde fabuleux de l'ultra à vélo en prenant le départ du Biking Man Corse dans quelques jours. Comme vous allez le découvrir, Stéphane est une personnalité singulière dans le paysage parfois feutré du sport, et il y a beaucoup d'informations à retenir dans cet épisode. Concentrez-vous, car c'est hyper dense. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir Spotzl via la plateforme Patreon. Le lien pour en savoir davantage est dans les notes du podcast et sur tous nos réseaux sociaux, où d'ailleurs je vous encourage vivement à nous suivre. Mais sans plus attendre, Stéphane Brognard. Allô Stéphane ?
Allô ?
Allô, bonjour !
Oui ?
Bonjour !
Bonjour !
Bonjour ! Ah dis donc, je suis super content de t'avoir parce que là j'ai fait une fausse manip à l'instant. Et j'ai appelé Camille de l'épisode de la semaine dernière, donc j'ai essayé d'appeler, je me dis bah mince, il répond pas, comment ça se fait ? 30 secondes après, j'ai un appel. Allô, oui, bonjour, t'as essayé de m'appeler ? Mince, bah disons, je me dis Stéphane, il a je m'attendais pas.
La virilité au ouais, la barbe, ça suffit pas en fait, la voix, il faudrait que ça aille avec, c'est ça que tu veux dire ?
Non, c'est pas ça, je juge pas la tonalité de ta voix, on a tous la voix, moi j'ai une voix de merde, donc c'est pas un problème. Mais tu vois, je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à un accent plus vosgien, plus rugueux, qui sentait un petit peu le terreau, le champignon et la racine pourrie, tu vois, un truc
Alors tu sauras que dans les Vosges, on dit fort comme le sapin, enfin solide comme le sapin, fort comme la Mirabelle. Donc écoute, t'as tout de suite peut-être un peu la teneur.
Ouais. Je sais pas. Depuis que j'ai passé quelques jours dans les Vosges, je vois donc la vie en Vosges.
Ouais, bien, voilà, ça c'est une bonne chose.
T'as vu, j'ai réussi à la placer quand même.
Ouais, t'es bon.
Et voilà. Bon, comment vas-tu?
Ben écoute, pas mal par ce beau temps vosgien, et on en profite parce que ça sent un peu ça sent la fin de saison, mais les feuilles commencent à voler au vent, on a un petit vent frais là aujourd'hui. Ben voilà, tout doucement être content de partir en Corse dans 3 jours je pars en Corse, et puis dans moins d'une semaine, on sera déjà en train de pédaler fort, et je pense que c'est un peu le sujet, la raison qui t'a poussé à me passer un petit coup de téléphone, non. Toi qui es plutôt branché deux roues et compagnie.
Alors non, initialement oui, mais en fait non, parce que j'ai cherché un petit peu, j'ai fouillé les informations que je pouvais trouver sur toi. Au passage, je n'avais jamais entendu parler de toi et jamais entendu parler de ce que tu as fait au printemps. Donc d'avance toutes mes excuses.
Donc, ça t'indique... Mais non, mais heureusement.
Ça t'indique que déjà il y a des progrès à faire sur ton plan de com et c'est une très bonne nouvelle. C'est une marge de progression supérieure. Donc j'en profite pour remercier son prénom m'a échappé de Nolio qui m'a appelé la semaine dernière. Alexandre, voilà. Nolio qui m'a appelé la semaine dernière pour tout autre chose, et puis il me racontait un petit peu les nouveautés de sa plateforme et me dit bah tiens, on va se mettre à bosser avec Stéphane Brognard et tout, il est vachement bon, et je suis resté comme deux ronds de flanc, si on peut dire, en ne sachant pas qui tu étais. Donc je me suis documenté, je suis remonté jusqu'au CE1, hein. Et là j'ai découvert qu'on a deux points communs, tiens-toi bien. Ouais. Le premier, c'est que tu as deux border collies, j'ai l'impression. Est-ce que je fais ça ?
Ouais,
c'est ça. Et moi aussi, et c'est mon chien préféré. J'adore ce petit chien, trop mignon. Ouais. Et tu as également, et nous en parlerons plus tard, tu as une aversion pour l'expression trop galvaudée, sortir de sa zone de confort.
J'ai un gros problème avec l'expression, effectivement.
Ouais. Et ben moi aussi, parce que j'en ai parlé il y a pas si longtemps, je crois bien dans l'épisode avec Camille, et j'ai dit exactement la même chose, l'expression sortir de sa zone de confort, c'est trop galvaudé. Donc c'est super.
Bon, enfin, en tout cas, la définition n'est peut-être pas la bonne par rapport à ce que chacun a besoin de, d'avoir dans ce monde occidental, besoin de sortir de sa zone de confort.
Eh ben justement.
Comme si la zone de parce que la zone de confort, ça s'appelle juste le début de la fin, ça s'appelle commencer à fossiliser. C'est plutôt mal barré quand t'es zone de confort, tu vois.
Grave. Bon, on en parlera plus tard. Avant cela,
ouais.
Sur ce début d'épisode Tony Truant, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu? Bonjour Stéphane Brognard, voilà.
Salut, salut à tous, bien heureux de t'avoir. Alors moi aussi je t'ai découvert et moi aussi j'ai même carrément découvert l'activité si tu veux. Et il y a à peine un mois et demi, le bikepacking, je ne savais même pas ce que c'était que ce mot de vocabulaire limite barbare. De toute façon, il y avait du bike et du ing à la fin, donc je me suis dit c'est pas fait pour moi, pour un Vosgien. Je découvre totalement cette activité, un peu comme j'ai découvert le trail et l'ultra trail, parce que rapidement on va forcément arriver à cet grand épisode de ma vie qui a fait aussi tout ce que je suis aussi actuellement. Et le bikepacking et ce qui était l'ultra trail en 2005 ou 2006, quand ça commençait à immerger dans la tête des gens, et quand tu leur disais faire du trail, ils te regardaient en te demandant ce que ça voulait bien pouvoir dire. Quand tu leur expliquais que tu partais courir plusieurs heures dans les bois, ils disaient ah bah c'est de la randonnée pédestre un peu plus vite. Bon, non, pas du tout. Et si tu veux, j'ai découvert cette activité bêtement, c'est-à-dire que je vais faire un peu à la rétro, plutôt que déjà de te parler effectivement. J'ai traversé l'Atlantique à la rame en solitaire, qui n'est absolument pas, t'imagines, pour un Vosgien qui connaît à peine le lac de Gérardmer, qui est forcément dans ses habitudes. Je voulais rendre possible un impossible, post-carrière, enfin en tout cas dans une évolution personnelle, dont je me suis toujours servi du sport comme un outil de développement personnel et comme une fin en soi, et que j'ai besoin d'exprimer des choses, j'ai besoin d'exprimer peut-être une cause noble personnelle, une ligne de vie, un message fort. Et moi, mon outil, c'est le sport. J'aurais peut-être préféré que ce soit, je sais pas, l'écriture, le théâtre, la musique classique ou je ne sais quoi, mais en tout cas, ou l'art lyrique, mais en tout cas, moi, c'est le sport, mon outil. Et j'ai pas du tout envie d'être forcément sportif, mais j'ai envie de m'exprimer au travers de ce sport. Alors effectivement, ça a commencé dès l'enfance, et puis quand on arrive à un âge avancé, eh ben on utilise ce sport autrement que de faire du sport. Mais dans le monde occidental, le sport nous est présenté d'une façon plus que particulière. Si tu veux être heureux dans le sport, il faut que tu montes sur un truc avec une boîte 1, 2, 3, il faut que tu aies une récompense, il faut que aux yeux des autres, on dise que tu es meilleur que les autres. Alors, c'est comme ça que le sport principalement nous est proposé dans le monde du sport, dans le monde occidental, et je n'ai pas dérogé à la règle, je l'ai fait comme ça, mais il arrive un moment où j'en ai eu totalement ras la casquette après des années de natation, des années de triathlon, des années de course à pied, et j'ai totalement arrêté parce que ça ne me convenait plus, et puis j'y suis revenu parce que c'est peut-être mon ADN, et que mon seul moyen d'expression était celui-là, mais par contre, j'ai arrêté de le faire de manière vouloir sportive, comme un sportif, mais j'ai voulu m'exprimer au travers de ça, peut-être envoyer un message fort, enfin en tout cas d'avoir besoin d'un événement remarqué, remarquable dans ma vie pour donner tort à ce père qui, à l'âge de 13 ans, prenait une sale habitude de me dire que j'étais nul et que je n'y arriverais jamais, encore moins que j'aurais aucun résultat dans le sport et que j'arriverais encore moins à en vivre. Alors, quelle est la meilleure manière de répondre à ce genre d'agression quand t'as 13 ans? Eh ben, c'est qu'à 30 ans, tu arrêtes de faire du sport comme un sportif et de tomber dans le panneau, entre guillemets, de ces grosses pensées parasites que peuvent amener le sport et l'enjeu à tout prix. Eh ben, j'ai dit non, je vais passer par mon propre jeu, je vais être champion du monde de mon monde, je vais utiliser mes outils, mais par contre j'ai besoin d'un fait remarqué, remarquable aux yeux du monde pour pouvoir dire j'existe, et surtout je te donne tort à ce père, et je n'ai pas du tout utilisé les méthodes conventionnel. On est en 2009 et je commence à m'entraîner de façon totalement différente en éliminant tous les parasites extérieurs, la montre, le plan d'entraînement. Et d'ailleurs, les plans d'entraînement, il suffisait de regarder ce que faisaient la plupart des gens. Et je me suis dit, bon, tous ces gens, ils sont pas parmi les meilleurs et ils utilisent un plan d'entraînement classique de course à pied, VMA courte, longue, seuil, sortie longue. Je me suis dit, bon, eux, ils sont que de deuxième à dernier. C'est déjà pas comme ça qu'ils font s'entraîner, parce que ceux qui gagnent sont des gens qui s'entraînent totalement différemment. et chacun à leur sauce. Il y a à l'époque, ils s'appelaient Dawa Sherpa, Marc Olmo, Kylian Jornet, François Deng, Xavier Thévenard, enfin, tous des gens que je connais, que je côtoie, et je me rends compte que ces gens-là s'entraînent chacun un peu à leur sauce, chacun différemment, enfin, chacun avec sa propre méthode. Donc, en 2009, je me dis, utilise ta propre méthode, construis-toi toi-même sans copier les autres. Déjà les autres c'est fait, autant faire du toi-même, ce sera plus facile à te réaliser. Et voilà, et j'ai la chance en 2014 de figurer parmi les 10 meilleurs de cette course qui s'appelle l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Déjà dans un premier temps, effectivement, ça envoie un message fort à ce père qui avait il s'est bien rendu compte que je suis capable d'y arriver malgré que je n'avais pas de facilité et de qualité physiologique énorme. Mais en tout cas, quand c'est au service d'une cause noble personnelle, le sport est beaucoup plus facile, et en tout cas ça fait toucher les étoiles, ça c'est sûr, plutôt que de se cantonner à vouloir gesticuler du mieux possible avec son corps. Ce moteur, c'est la préparation mentale de base, entre guillemets, ce moteur est essentiel et m'a changé la vie. Une fois que j'ai eu passé ce cap et ce passage-là, j'arrivais dans cette fameuse zone qui s'appelle la zone de confort, c'est-à-dire au gré de mes courses, t'imagines bien, ça s'est pas fait du jour au lendemain, au gré de ces courses, chaque course n'avait qu'un objectif, donner le meilleur de soi, être au plus proche de soi-même, la tête et le corps exactement au même endroit, il est hors de question d'avoir le cerveau ailleurs, et hors de question d'avoir une Clio Sport sans pilote à l'intérieur. Si le pilote il est déjà à la buvette 7 km plus loin, la Clio Sport elle va droit dans le mur. Non, la tête et le corps exactement au même endroit, savoir tout ce qui s'était passé c'est pendant la course, bien ou pas bien, peu importe, mais enfin j'avais pour objectif d'avoir la tête et le corps exactement au même endroit, donner le meilleur de moi-même, mais surtout, le plus important des courses que j'ai pu participer, c'est que quand je passais la ligne d'arrivée, j'avais pour obligation d'être meilleur à celle d'après, pour progresser vite, et ça, il n'y a pas de plan d'entraînement qui t'explique, donc je prenais le dossard, je le retournais, je n'allais pas l'afficher comme bon nombre de coureurs, d'afficher ça dans le mur du garage, je faisais un côté plus, un côté moins. Et comment je mets en place pour que les moins passent en plus? J'ai progressé très rapidement. Mais quand je suis arrivé à maîtriser ce sport-là, effectivement, j'avais envie de passer à une autre étape parce que j'arrivais zone de confort. Et effectivement, zone de confort, pour moi, ça veut dire fossiliser, coaguler. Ça veut dire que c'est peut-être une petite mort ou le début de la fin. C'est pas bien le confort. Enfin, moi, le confort ne me plaît pas. Enfin, le confort, comme on l'entend, ça veut dire se mettre bien. Alors, se mettre bien, effectivement, ça ne me convenait pas. Parce que tu n'as plus de raison valable de te lever à 5 heures du matin avec une énergie terrible à te dire comment je vais faire. Donc, j'ai cherché un impossible. Je revenais d'une diagonale des fous en 2016-17. Et puis, je suis là dans l'aéroport à attendre une valise et je cherche un truc impossible à rendre possible. Et puis, je cherche dans mes cordes et j'en arrive à vouloir traverser un océan à la rame. Qui n'avait rien à voir avec, et c'était totalement impossible. D'ailleurs, je le crie haut et fort sur les réseaux sociaux. Donc déjà, j'étais verrouillé, j'étais coincé, j'avais pas le choix. Et puis surtout, la plupart de mes amis, de mon entourage, me disent mais t'es complètement dingue, c'est complètement nul, tu arriveras pas. Ah, donc c'est que j'avais fait la bonne solution, j'avais géré le bon truc, et c'est parti. Et voilà pourquoi j'en suis arrivé à traverser un océan. Et voilà pourquoi j'en suis parti aussi à vouloir relever de nouveaux défis, à rendre possible des impossibles, comme notamment, après avoir fait l'Atlantique à la rame, de vouloir aller faire Paris jusque Dakar en vélo en moins de 20 jours, parce que j'ai entendu parler qu'un certain Steven Le Yarrick avait mis 20 jours, et je me suis dit tiens, c'est un beau challenge, et je me suis d'ailleurs empressé de lui envoyer un message en lui disant salut Steven Le Yarrick, tu ne sais pas qui je suis, tu ne me connais pas, mais sache que j'aimerais bien tenter de mettre moins de 20 jours à ce que tu as initié, en voulant faire un Paris-Dakar en vélo en y mettant un temps apparemment de référence. Tu sembles être une référence dans ce sport-là, donc j'aimerais bien que tu me donnes des coups de main pour battre ton record, en gros, tu vois. Et puis voilà comment on en est arrivé à ce que la marque Wish One me contacte au travers de Opel, qui est l'un de mes sponsors, et me dit « Stéphane, écoute, il y a un truc qui s'appelle le Biking Man en Corse. » Je dis « Qu'est-ce que c'est que le Biking Man ?» Mais il dit « C'est pas très compliqué, tu pars d'un endroit, tu reviens au même, il n'y a pas de balisage, il y a machin, tu te débrouilles, ça fait 850 km. » Je dis « Nom de Dieu, allez, c'est parti mon kiki. » Et il y a un mois en arrière, Maxime de chez Wish One m'amène un vélo, et puis je mets des sacoches sur un vélo. Je n'imaginais jamais un jour foutre des sacoches sur un vélo. Et il me dit « Bah écoute, dans un mois, tu viens, voilà ton dossard, voilà ton truc. » Et puis je me suis dit « Tiens, je vais me renseigner. » Alors je suis tombé sur un certain Axel, je suis tombé sur un certain Richard au travers de podcasts. Et voilà comment on en arrive la semaine dernière à avoir un coup de téléphone de ce fameux Richard, message. Il me dit « Dis non, t'aurais peut-être pas deux, trois trucs à me donner. » Et voilà un peu l'histoire en presque raccourci, parce que si tu me chauffes un peu, dans 2 heures, on y est encore. À toi.
Tu parles beaucoup.
Écoute, il fallait pas m'appeler, hein. Non, voilà, je te la fais courte, mais voilà, en gros, comment on en arrive dans ce domaine qui est le sport, effectivement, à vouloir utiliser ça comme un outil, plutôt comme une fin en soi, et finalement, ça ouvre les frontières. Alors, la gesticulation est différente à chaque fois, qu'elle s'appelle du trail, qu'elle s'appelle du vélo, qu'elle s'appelle de la rame. C'est une gesticulation au service de quelque chose, notamment au service de soi-même, vous savez, au service des autres, au service de tout ce qu'on veut. Enfin, on l'habille après comme on veut, mais voilà un petit peu en raccourci mon histoire au travers de cette activité physique et sportive. Voilà.
Alors, tu m'as dit... j'ai besoin de m'exprimer, j'aurais bien aimé le faire à travers la musique ou toute autre forme artistique. Qu'est-ce que tu as à exprimer? Qu'est-ce que tu as à dire?
Moi, je te le dis à demi-mot, mais finalement, c'est presque le moteur de ma vie, d'avoir une enfance plus que particulière. Tu sais, je suis aussi préparateur mental pour, et j'accompagne notamment des sportifs, on va dire, de haut niveau, c'est-à-dire ce sont des athlètes qui essayent d'aller peaufiner la préparation au point de minimiser les parts d'incertitude et notamment les parts de pensées parasites, parce que c'est bien beau d'avoir un potentiel physique théorique, mais pouvoir en exprimer quasiment la totalité de ce potentiel physique théorique, il est nécessaire d'avoir toute son attention à ce que tu fais. Mais si une partie de ton attention est partie dans ta feuille d'impôt, elle est partie effectivement que c'est la première fois que tu es au Stade de France pour faire une course, je sais pas, ainsi de suite, tu vas mettre de ton attention ailleurs. Faut pas s'étonner après que sur le résultat, tu n'as qu'un certain niveau de ce potentiel que tu as acquis au travers des entraînements, que tu sais que tu as. Donc, effectivement, moi, mon rôle de préparateur mental, je sais très bien aussi qu'il est vraiment important et qu'il est, c'est la clé. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux exprimer quand je dis aux athlètes, ayez une cause noble personnelle plutôt que d'avoir simplement envie de gesticuler et de faire une performance, parce que le vrai moteur, il est là. Peu de pensées parasites, et une cause noble de le faire. Moi, ma cause noble, j'ai aucun problème de le dire. C'est ce père qui, à l'âge de, plutôt dans ma jeunesse, n'arrête pas de me marteler que je suis plutôt feignant et que je suis plutôt nul et que j'y arriverai pas et qu'il n'est pas nécessaire de continuer à gesticuler parce que je faisais tous les sports du monde et que moi, c'est ce qui me plaisait après tout. Donc, quel est le meilleur outil que j'ai pu trouver pour pouvoir donner tort à cette personne-là? Parce que le sport de haut niveau, c'est pas que du plaisir. Je veux dire, le plaisir dans le sport de haut niveau, faut arrêter avec ce truc-là, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour se faire plaisir. On est là pour exprimer quelque chose. On est là pour taffer et que quand on fait n'importe quel type de haut niveau dans n'importe quelle activité que ce soit, faut arrêter avec ces notions de plaisir. Je veux dire, j'ai envie de me faire plaisir. Mais non, pour se faire plaisir, tu vas sur une plage avec un bouquin, avec des potes, j'en sais rien, mais c'est pas, on va pas faire du sport à se foutre sur la tronche pendant 850 km, se faire plaisir là-dedans, j'ai du mal avec ça. Enfin, je veux dire, non, pas du tout. Et c'est même un sacré moteur de ne pas vouloir faire du sport pour du sport. Donc moi, effectivement, c'est un moteur vraiment puissant mais finalement, c'est presque un merci aussi, parce que ça veut dire que au quotidien, vouloir aussi se dépasser, en tout cas ne pas vouloir se reposer sur ses lauriers, un petit peu, je fais un effort étant jeune, j'obtiens un diplôme et puis je vais surfer avec ce diplôme ou ces compétences acquises jusqu'à 25 ans et roule casquette, ça ira bien jusqu'à la retraite et puis on essaiera de passer ça du mieux possible. Ne me satisfait pas quand tu un jour ou l'autre tu as ce déclic de dire mais non, et si je voulais donner tort à cette personne qui m'a, sans le vouloir, m'a donné aussi une envie, une puissance qui me pousse encore aujourd'hui, qui me poussera toute ma vie à vouloir aussi élever le niveau optimum moyen, sinon on en serait peut-être toujours à faire du feu avec un silex, que les personnes élèvent le niveau optimum moyen.
On a été un petit peu coupé. On a été coupé quelques instants au niveau de silex.
Donc je disais, effectivement, la zone, le niveau optimum moyen qui font peut-être progresser ici le niveau général passe aussi peut-être par des Zulberlu, des mauvais élèves, des gens qui ne sont pas dans le conventionnel comme moi. Alors moi, c'est au travers d'une cause noble personnelle liée à une enfance, mais quelqu'un d'autre, ça peut être en réaction à je sais pas, moi je pense des fois à des cadres supérieurs d'une entreprise qui se font malmener par un patron et qui veulent créer quelque chose d'autre à côté, qui va les pousser à être meilleurs que ce qu'ils avaient pu, et ça élève le niveau optimum moyen. Et que finalement, le premier gars qui un jour a eu envie de traverser la France dans les années 30 dans les congés payés à vélo, c'était pris pour quelque chose d'extraordinaire, je sais pas quoi. Et puis que quelques années plus tard, il y a un type qui a voulu faire le tour du Mont Blanc en courant, et puis il a été pris pour un uluberlu. Tout le monde lui disait qu'il n'y arriverait pas, et puis il a été mauvais élève, il y a quand même fait. Et puis que maintenant, c'est des milliers de personnes qui font le tour du Mont Blanc en courant, et que dépasser ça, c'est faire monter le niveau moyen. Alors il y a des gens qui sacrifient un peu, il y a des gens au travers de leur cabossage de vie, au travers de leur histoire de vie, vont chercher pour des raisons chacun individuelles à rendre des choses, à faire des choses qui semblent extraordinaires aujourd'hui, qui vont sembler normales, je l'espère, demain. Ça m'intéresse.
Est-ce que tu ne t'es jamais dit, ben papa, tu penses que je suis comme ci, comme ça, tu penses que je suis nul, ben j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Plutôt que de vouloir lui donner tort.
Oui, exactement. Ça aurait très bien pu. Ce n'a pas été le cas. Et finalement, j'en suis presque content. C'est-à-dire avoir un peu ce côté ouais, j'en ai rien à faire, j'en ai machin. Alors oui, maintenant, parce que j'en suis plus là, finalement. Mais je suis dans un engrenage. Je suis dans un... Mon ADN, ma génétique a été marquée par ce truc-là. Mais quand on a 13 et que tu te forges à ce truc-là, de se dire j'ai besoin d'être... Ça te donne une force. Et qu'on me le fasse pas tout à chacun, un jour ou l'autre, face à une réflexion, face à une agression, d'autant plus que je suis un mâle bourré de testostérone de la race humaine, donc c'est encore plus facile à jouer sur ce levier, surtout quand on est jeune adolescent, d'être un peu piqué au vif par un copain, par un entourage, par un voisin, par je ne sais quel truc, d'être piqué au vif. Et gamin, ça fonctionne très très bien. Alors quand on est adulte, raisonné, avec un petit poil de recul sur soi-même, effectivement que l'on passe à autre chose. Mais au dégât, l'enclenchement a été à ce moment-là. Et on a tous eu un enclenchement au moment ou un autre. Enfin, en tout cas, toutes les personnes qui, un jour ou l'autre, vont vers une forme d'excès, c'est un excès, je veux dire, ce que l'on pratique, c'est un excès. Le type qui veut faire des concerts, de 200 concerts par an au travers de la France, enfin, je veux dire, tous ces gens qui vont vers une forme d'excès ont, à un moment ou un autre, c'est une rébellion, quelque part. Je trouve qu'il y a, quelque chose, enfin, on n'y va pas forcément comme ça, de gaieté de cœur et de plaisir. Alors, moi, mon étincelle, elle a été, mon déclencheur, il a été mis dans cette adolescence. Alors, il a ressurgi vers 25-30 ans, parce que c'est toujours un peu des passages, des actes dans la vie. Sinon, ça aurait pu très bien faire. Puis, j'ai envie de ce truc-là, et maintenant, j'en suis très heureux. Alors, je suis en paix, effectivement, avec moi-même, parce que un gros travail, un gros boulot a été fait sur moi-même, que je me suis fait moi-même à coup de sport, et finalement j'en suis très très heureux, et puis ça me permet, alors ça c'est la cerise sur le gâteau maintenant, c'est-à-dire que j'ai la chance, au travers de tout ce que j'ai pu réaliser, qui peuvent paraître extraordinaires, impressionnants, mais on est plein à faire ce genre de choses, mais ça me permet de rencontrer d'autres personnes que je n'aurais jamais peut-être rencontrées si j'avais eu une vie entre guillemets normale, et que je n'ai pas forcément envie d'avoir une vie normale, ce qui me permet de rencontrer des gens extraordinaires. Et ça, c'est une grande richesse. Pauvre tout, mais très riche de soi grâce à toutes ces belles rencontres.
Alors, les 200 concerts par an, la musique, par essence, c'est un truc de scène. Donc, quand on est musicien, on a envie de jouer sur scène et on n'a pas envie de passer son temps à faire des disques. Et si les disques se vendaient, ils ne seraient peut-être pas obligés de tourner le cacheton toutes les semaines comme des malades pour gagner 4 sous. Si il s'est avéré que tu avais aucune qualité physique, que tu étais effectivement nul, tu aurais fait quoi? Même si, enfin, alors, avant de répondre à ça, on pourrait toujours définir ce que veut dire être nul. Mais si il s'avérait.
Tu m'entends?
Oui, il y a eu une petite coupure. Si c'était avéré que ton père avait eu raison, tu aurais fait quoi?
Ah, ça aurait été décevant, mais en tout cas, j'aurais retrouvé une autre forme. Après, je ne suis pas allé taper à n'importe quelle porte de n'importe quel sport pour pouvoir m'exprimer au point de pouvoir avoir... Je sais mes qualités, je sais mes points faibles. Je n'ai aucune qualité physiologique d'aller faire un 10 km en moins de 32 minutes, ça c'est sûr. Je suis un pas vite, mais tout le temps. Mais ça, c'est depuis l'enfance. Et que effectivement et mes qualités physiques, je les ai fait s'exprimer au travers de ce qui était à peu près toutes mes caractéristiques génétiques et physiologiques. Ça joue beaucoup. Je suis allé appuyer mes points forts, je suis pas allé appuyer mes points faibles. Et si ça n'avait pas été le cas au travers du sport, j'aurais trouvé moyen de le faire autrement. Mais tout ça pour te dire que j'aurais pu, dans tous les cas, réussir à... à montrer, de réaliser hein, des événements remarqués, remarquables, pas pour moi, pas pour les yeux du monde, mais pour cette personne qui m'avait piqué au vif. Ça, c'est ça, je sens que j'ai ça au plus profond de moi-même. Qu'arrive un moment, j'ai voulu prouver certaines choses, mais ça va même plus loin. Moi, je veux dire, j'avais des parents qui venaient d'un milieu plus que modeste, au point d'avoir toujours aussi fait partie, peut-être, tu sais, de ces enfants qu'on a tendance à facilement critiquer dans les cours d'école parce que les parents n'ont pas les moyens de leur acheter des Nike Air. Donc, arrive à un moment, il était aussi nécessaire, parce qu'on est enfant, parce qu'on a envie d'exister, de leur dire, mais j'existerai autrement, et je suis toujours assez surpris, voilà, avec tout ce qui m'arrive actuellement, de recevoir des messages de ce qui étaient mes camarades d'école en disant, mais c'est incroyable, je veux dire, la manière dont tu étais, un peu, du coup, introverti, un peu, à pas beaucoup t'exprimer parce que tu rentrais pas dans les clous de la mode et de la société comme les autres vivaient, t'étais même un peu à être critiqué parce que tu n'avais pas les moyens d'acheter certaines choses et de t'avoir vu réussir et de pouvoir t'exprimer alors que nous finalement on n'a qu'une vie normale, tout le monde trouve ça toujours assez extraordinaire, c'est toujours un petit peu drôle aussi, mais c'est aussi tout ça qui te forge à en arriver à ce que j'en fais maintenant, bien sûr, mais je suis un cabossé et j'en ai aucun problème de le dire, j'ai aucun problème de jouer avec ça et je n'ai pas envie d'être normal et quelque part on est c'est mon moyen d'expression quoi, je veux dire et je suis entre écorché vif à avoir une certaine vengeance sur la vie de certaines choses et je resterai un combattant tout le temps, ça c'est indéniable, je ne vois pas la vie autrement que d'être un combattant jusqu'à la fin quoi, ça c'est net.
Et c'est quoi une vie normale?
Une vie normale, c'est marrant parce que alors je peux essayer de te la définir, mais j'imagine que toi-même, vu tes activités, tu ne sais pas trop ce que c'est qu'une vie normale, mais une vie qui est plutôt bien rodée, avec une vie de famille, avec un petit crédit d'une petite maison dans un endroit sympa, avec des enfants qui ont une scolarité, que tout se passe bien, et puis que finalement dimanche midi on va manger chez la belle-mère, et puis que on a quelques semaines de vacances où on va s'autoriser quelques excentricité, aller visiter un pays ou un autre, ou peut-être un endroit qu'on ne connaît pas, qu'on a une activité physique pour être en bonne santé. Quand on fait du sport comme on le fait ou comme je le fais, on ne peut pas toujours dire qu'on frise toujours avec la catastrophe physique, il ne faut pas déconner. Et que tout ça, c'est une vie normale. C'est une vie raisonnée, raisonnable. Je veux dire, c'est une vie d'équilibre. C'est une vie où on essaie de se retrouver à peu près dans une situation où on ne sera jamais trop en inconfort. Moi, je passe ma vie dans l'inconfort. Je veux dire, il y a pas de mal. Je veux dire, c'est comme ça, c'est ça une vie normale. Et nous, on est totalement en déséquilibre en permanence et on essaye de rétablir un peu ce déséquilibre, mais on essaye de se mettre tout le temps en déséquilibre en permanence. C'est un jeu et on essaye de retrouver un équilibre. C'est le jeu de toutes ces personnes qui vivent ce truc-là. Ça, c'est une vie normale, une vie normée, comme dans un monde occidental nous a été et c'est pas si inconfortable ni c'est plaisant hein, pour une grande partie de la population, mais moi je ne pourrais pas la vivre cette vie-là, donc j'ai décidé de la vivre autrement. Alors c'est un peu plus scabreux, je te l'accorde, mais finalement rétablir des équilibres, des déséquilibres dans lesquels on se met, des situations les plus incongrues dans lesquelles on se fout, c'est quand même une énorme satisfaction. Alors il faut accepter des très très bas pour connaître des très très hauts, mais j'ai besoin d'une vie de relief, et un peu comme j'aime être dans l'environnement des montagnes, c'est il faut du relief dans une vie, je ne peux pas avoir une vie plutôt calme, et ce sera toujours un peu le bazar, et ça me plaît quoi.
C'est quoi une vie occidentale, une vie normale occidentale?
Ah, la vie normale occidentale, je veux dire, elle est quand même plutôt bien définie et plutôt bien normée avec un système de scolarité, avec tout est fait pour avoir une vie qui se ressemble, qui soit calquée sur son voisin, mais sur calquée sur alors. Auparavant, c'est les religions beaucoup hein, qui imposaient une vie normale. Alors, selon les endroits de la terre, chez nous, la religion catholique se basait aussi avec des dogmes, des règles basées sur le pastoralisme dans nos campagnes, dans les Vosges, avec une vie qui était plutôt rythmée, avec des horaires, avec des tâches à réaliser, avec des types de comportements à avoir du socialement correct et ainsi de suite. Et puis que tout était, on savait qu'on avait déjà une réponse pour la moindre problématique, avec une vie déjà presque écrite à l'avance. Moi, rien n'est vraiment écrit. En tout cas, je lance des trucs et puis il faut les réaliser et ça part dans plusieurs directions. Et mais il y a toujours une ligne de conduite très personnelle. Qu'une vie occidentale n'a pas toujours une ligne de conduite très personnelle. Elle est plutôt dictée par le monde extérieur. Moi, elle est dictée par moi-même. Alors, bien souvent, on est quand même de temps en temps obligé de se rallier à cette dictée qui nous est donnée par une, je sais pas, par une idée générale qu'on nous guide. Moi, en l'occurrence, je pars dans des directions. En tout cas, je me trace moi-même mon chemin. Je ne reste pas sur celui qu'on nous demande de rester, quoi. Ça, c'est sûr.
Tu donnes l'exemple du pastoralisme et de la campagne marquée par les églises, mais c'est un petit peu valable dans toutes les religions et dans toutes les zones du monde quand même. Se lever à 5 heures du mat pour prier, se mettre un petit rond de tissu sur la tête ou avoir une belle barbe, ou se raser la tête et être habillé en orange, tout ça c'est quand même extrêmement rythmé par un mec qui a écrit un livre et qui pense que c'est exactement vrai. Donc, est-ce que c'est pas un peu cliché de pointer le monde occidental et le rythme bien défini alors que finalement on retrouve la même chose ailleurs ?
Ah non, c'est alors je dis le monde occidental parce que c'est celui dans lequel je vis et c'est celui dans lequel j'évolue, donc c'est celui que je connais accessoirement le plus. Après, bien sûr, mais dans le monde entier. Par contre, dans chaque civilisation et dans le monde entier, on a toujours affaire à des exceptions, à des mauvais élèves. J'adore le mauvais élève. Le mauvais élève fait avancer le monde. Enfin, je veux dire, c'est quand même le mauvais élève qui fait progresser les choses, qui fait sortir, voire élever le niveau moyen, comme je te le disais, et pourquoi pas aussi modifier un petit peu le socialement correct ou la pensée commune. Et j'estime faire partie un petit peu de ces gens-là. Alors, à ma petite échelle, d'accord, mais on est tous un peu des troublions, quelque part, en étant avec des comportements ou des façons de faire qui soient différentes. Alors, moi, je connais le monde occidental. Je pense que j'ai la chance, des fois, d'avoir rencontré des gens comme Dawa Sherpa, qui connaissent très bien le monde bouddhique, qui est celui dans lequel il est né. C'est un spécialiste de l'ultra-trail, mais tout comme dans d'autres pays, dans d'autres civilisations. Et quelque part, lui aussi, à sa manière, il a peut-être fait aussi un petit peu évoluer la conscience commune au travers de ses petites actions. Et chacun de ces petits troublions, élève le niveau moyen, font peut-être un peu évoluer les consciences, et je me rends bien compte qu'avec les situations dans lesquelles nous nous trouvons à l'heure actuelle, qui sont liées peut-être au dérèglement climatique, qui font peut-être bousculer un peu les consciences, d'imaginer qu'on était dans quelque chose qui allait durer à l'infini, ainsi de suite, et que les comportements doivent changer, et ça a été mis en action peut-être par des troublions, et ainsi de suite. Et ça fait évoluer les consciences, et beaucoup de gens commencent un petit peu à ressortir de ce mode très conventionnel, très normé, ou très, on suit, c'est écrit, quoi. Non. Et c'est aussi l'émergence de tous ces sports outdoor qui font se retrouver des personnes qui étaient dans cette vie normée, en ressortir totalement pour aller préparer un tour du Mont Blanc en courant. Enfin, je veux dire, ça sort totalement de la raison dans laquelle ils étaient, mais que, finalement, il y en a de plus en plus. L'outdoor, alors là, il y a eu cette histoire de confinement, et on voit bien que les personnes en ressortent, et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et ils le font pas pour ressembler à, ils le font parce qu'ils sentent qu'il y a une démarche profonde au fond d'eux, que le moyen de s'exprimer, alors voilà, nous on est dans le monde du sport, donc c'est plutôt ces gens-là qu'on côtoie, mais que des néo-aventuriers ou des gens qui partent dans la micro-aventure, qu'un état d'esprit s'est mis en place différent de celui qui était peut-être dicté depuis l'école. C'est chouette, ça. Enfin, moi, je trouve ça formidable. J'adore ce truc. Alors, il y en a qui vont un peu plus avec excès. Il y en a que ça a été leur vie basée là-dessus, peut-être des gens comme moi. Et il y a des personnes qui commencent un petit peu à métamorphoser leur quotidien au point d'aller effectivement vers de la micro-aventure, comme j'ai pu débattre la semaine dernière du côté d'Annecy, parce que j'étais invité à débattre sur ces micro-aventures. Et je trouve ça formidable. Enfin, moi, j'adore ça.
Ça me fait penser, là, ce que tu viens de dire sur remettre en question la vie... telle qu'on la connaît actuellement, ça me fait penser un petit peu au mouvement hippie des années 70, où justement il y avait une quête à la fois de le terme est super à la mode, mais de dématérialisation et de une quête bien spirituelle. Sûr. Et pourtant, ça a fait un énorme flop. Pourtant, tout le monde en est revenu à un truc super matérialiste. Le seul qui s'en est sorti, c'est Steve Jobs. Finalement. Et aujourd'hui, si on s'appelle aujourd'hui, c'est grâce à lui quand même. Donc, c'est très bien, très bien. Pas si mal.
Mais non, Oui, oh non, mais plein de bonnes choses dans le monde occidental. Je n'ai pas été du tout dire que c'était mal, hein. Bien au contraire, on est très heureux. Enfin, moi, je préfère vivre à notre époque qu'à 50 ans en arrière, hein. Et puis je signe des deux mains pour l'époque dans laquelle je vis.
Ça ne me pose par contre, je ne suis pas sûr. Souci, tu vois, j'aurais bien aimé vivre dans les années 70.
Ah, ça... Oui.
Pour la musique.
Parce qu'il y a une espèce de forme
pour
de...
la musique.
Voilà, pour la musique, ok.
Ouais.
Mais sinon,
pour
il y a peut-être une certaine forme de nostalgie. Ouais, aussi une certaine forme de nostalgie parce qu'on y voyait certains bons côtés d'une vie plus simple qui nous paraissait. C'était dur, c'était très compliqué. Et notamment, je pense, parce que tu me parlais du mouvement hippie, très bonne chose. Si actuellement, c'est la femme vit actuellement avec une autre liberté que ce qu'elle a pu connaître dans ses années 70, est-ce que c'est pas grâce à ce mouvement hippie qui était troublion, qui était peut-être marginalisé, qui était peut-être mauvais élève? N'empêche que maintenant, je vois la femme occidentale vivre avec une forme de liberté qui est quand même autre que ce qui était la normalité d'une femme dans les années 50. Et ça, c'est chouette. Enfin, moi, je trouve ça juste merveilleux. Et que encore une fois, ces phénomènes de société qui, à l'époque, étaient liés, par exemple, voilà, par exemple, à ce mouvement hippie, ne va pas faire aussi que dans les années 2030, ce phénomène lié à la micro-aventure, à ces gens qui sortent de leur quotidien au travers de choses qui peut, allez, on va utiliser le mot parce que ça parlera à tout le monde, sortir de sa zone de confort, enfin, de son petit niveau pépère, fait aussi que la société va progresser avec des gens qui vont avoir pleine conscience grâce à ce qu'ils auront pu vivre de façon ponctuelle au travers de leur activité et que ce mouvement général de la micro-aventure, quelle qu'elle soit, à vélo, à pied ou qu'elle soit n'importe quoi, on n'a jamais vu autant de monde dans le massif des Vosges marcher en ayant simplement acheté une paire de baskets dans un magasin de sport très connu et d'un petit sac à dos qui ne l'aurait jamais fait il y a quelques années en arrière. Est-ce que ça, c'est pas une forme d'aller vers une norme beaucoup qui élève un peu la norme vers une forme de liberté, ainsi de suite, comme peut-être le mouvement hippie a pu le faire en son temps pour maintenant avoir, je trouve, encore pas assez, bien sûr, ça je te l'accorde, mais d'avoir une femme qui soit un peu plus libre dans sa manière d'être, de vivre son corps et de vivre, de s'exprimer. Ça joue quand même, enfin moi je trouve.
Est-ce que tu as eu l'occasion de reparler de tout ça avec ton père?
Ouais, bien sûr, bah,
vous êtes d'accord maintenant?
Alors, on a été d'accord, mais mon papa est décédé depuis cette époque. Mais attention, rien de grave, c'est comme ça. Mais oui, effectivement, largement qu'on en a discuté, largement qu'on a débattu sur le sujet et qu'il a compris. Alors, il avait ses raisons de l'époque, sauf qu'on ne calcule jamais trop la manière dont des fois on s'exprime auprès de ses enfants, qu'on s'exprime auprès des autres. On a toujours du mal à dans la tête d'un enfant de 13 ans, ce qui peut paraître dans la tête d'un adulte quelque chose de bénin à sortir. Comme ça, vite fait, bien fait, de le marteler sans le vouloir, croyant bien faire ou je sais pas quoi, que ça peut créer telle chose. Mais encore une fois, c'est presque un merci tout ça. Et moi, je sais très bien que mes enfants, que je mets dans une situation plus que confortable, n'auront jamais la possibilité, peut-être, en tout cas, il va falloir qu'ils trouvent d'autres outils que celui que j'ai pu actionner moi pour pouvoir parvenir à des quelque chose. Mais ils ont tellement d'autres outils, tellement la chance de pouvoir avoir été dans une situation beaucoup plus confortable que j'ai pu connaître et je ne changerai rien, voilà.
Alors, j'ai reçu dans tout ce que j'ai pu fouiller sur toi, j'ai noté une phrase parmi beaucoup d'autres. Ouvrez les guillemets donc. J'ai acquis beaucoup de choses dont les compétences pour être un coureur connu et reconnu en ultra trail. Quelles sont ces compétences pour être un coureur connu et reconnu? Et la formule connu et reconnu, est-ce que c'est juste un effet de style ou est-ce que tu fais quand même une petite distinction dans le fait d'être connu et reconnu? Question piège.
Ouais,
fermez les guillemets.
Non, c'est pas du tout piège, bien au contraire. Le fait d'être reconnu et reconnu dans ce sport-là est effectivement le message. Alors, on peut dire que dans un premier temps, tu flattes un peu ton ego, mais ça c'est très occidental. Alors au début, ça marche bien, le flatter son ego, ça c'est un formidable outil. Alors qu'on peut imaginer bon, pas bon, chacun y met sa petite sauce dans c'est son ego. Oui, c'est l'ego. Mais alors, moi j'ai aucun souci avec mon ego et j'étais bien content et bien fier de dire qu'effectivement ça flattait mon ego, j'en étais plutôt content. D'ailleurs, c'était une grande satisfaction, mais que par derrière, le fait d'être connu et reconnu, ça donne aussi la possibilité d'une méthode que j'ai pu mettre en place. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas été capable de poser quelque chose sur la table, de remarquer remarquable et d'être connu, reconnu pour, par rapport à cette compétence, avant 2014, tout ce que je pouvais prôner et tout ce que je pouvais dire dans la manière dont je m'entraînais, c'était pas grand-chose. Le jour où tu fais top 10 à l'UTMB, ça devient parole d'évangile parce qu'il y a eu quelque chose de posé. Et le fait maintenant d'être connu et reconnu dans un certain domaine, une certaine pratique, un certain franc-parler, une certaine manière que je donne aussi en conférence, qui fait aussi la réussite de mes conférences, c'est aussi ce côté-là. Et que ça me permet, et d'une, de vivre, non pas de formuler un dogme, de dire aux gens c'est comme ça qu'il faut faire, pas du tout, mais par contre de dire aux personnes soyez vraiment vous-même et utilisez vos propres compétences, soyez au plus proche d'utiliser l'outil que vous avez sous la main, peu importe, que ce soit chef d'entreprise, que ce soit n'importe quoi, au service de votre de ce que vous avez envie d'exprimer le plus fort au travers la cause noble ou ainsi de suite. Ça, c'est, il y a que quand t'es connu et reconnu que tu peux t'autoriser de le dire. Parce que si tu le dis avant, les gens disent, ah, bon, oui, enfin, bon, bref. C'est aussi ça, le monde occidental. C'est-à-dire, pour avoir une parole qui a du poids, en tout cas, pour peut-être exprimer une méthode ou pour pouvoir dire, voilà ce qui m'est arrivé, voilà comment j'ai mis en place les choses, voilà une démarche. Eh ben, cette démarche-là, chacun m'a rendu heureux. C'est surtout ça, en fait, l'intérêt. On est tous dans une quête un peu de bonheur. Alors, peut-être que moi, la méthode que je peux, grâce à être connu, reconnu, que je peux donner ou que je peux dire quelle démarche j'ai pu entreprendre, si un petit élément peut faire tilt un jour à quelqu'un et le rendre plus heureux, c'est pas la classe, ça. Enfin, moi, je trouve ça juste génial. Et ça, c'est, il y a que quand t'es connu et reconnu, ça. Alors, au début, tu flattes ton ego, c'est plutôt sympa. Mais ça dure pas bien longtemps. Auquel cas, surtout quand t'arrives à un âge avancé comme le mien maintenant à 44 ans, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, d'être connu, reconnu, tu peux aussi.
On a le même âge, hein, donc peux... s'il te plaît.
Non, mais voilà, tu vois, tu n'es plus obligé de flatter ton ego. Mais des fois, ça peut vraiment, sincèrement, alors pas plus tard qu'hier, je mangeais dans une auberge sur le Vosges et je rencontre quelqu'un qui me dit merci pour tout ce que tu fais et le fait d'être connu. Je te suis sur les réseaux et ça m'a vraiment beaucoup aidé dans la vie, cette mentalité et la méthode et peut-être de revenir à une certaine forme de simplicité. Franchement, je suis payé, largement payé que d'avoir fait un top 10 à l'UTMB, d'entendre ce genre de truc. Non pas encore une fois pour flatter mon ego, mais je dis, elle a utilisé. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un bouquin qui va sortir au printemps et que l'idée, c'est pas de dire, ah ben dis donc, Stéphane Brunier, ben il a fait ci, il a fait ça. C'était pour étaler un CV et puis d'aller raconter que t'as fait des trucs pires ou mieux que les autres, bon, aucun intérêt. Par contre, de mettre une démarche en place de ce gamin d'Épinal dans une situation plus que modeste et puis qui arrive à dérouler et qui pour se sortir de la mêlée il a aussi, parce que c'est un peu le but, hein, c'est un peu comme ça que ça se passe, et ben il utilise une méthode, il garde sa ligne de conduite depuis son plus jeune âge et à un moment ou à un autre il appuie sur grâce à une grosse cause noble personnelle, il arrive à parvenir à quelque chose et il est en paix avec lui-même et il déroule quelque chose et ça va de l'avant et on se repose pas sur ses lauriers et quand on n'a pas terminé un truc, on remet un truc, ce qui te donne envie de te lever à 5h du matin pour dire maintenant que je l'ai dit à tout le monde, bah, je suis obligé de le faire, un peu comme un défi, un shish cap duck et ça c'est hyper moteur dans une vie et tu t'ennuies jamais et c'est ça aussi qu'il faut dire aux gens, et t'assouvis ta cause noble et tu dégages une énergie positive autour de toi qui fait du bien aux autres et que le fait d'être connu, reconnu, maintenant ça va me permettre dans 4-5 ans de pouvoir traverser un Pacifique à la rame, en équipage, d'aller d'île en île pour pouvoir être connu, reconnu grâce à d'autres défis que je suis en train de mettre en place, d'avoir la possibilité d'être allié par des fondations, d'être allié par des grandes marques qui me donnent le budget, et qui me donnent les opportunités, les ouvertures, les outils pour pouvoir réaliser 6 mois de traversée d'un Pacifique à la rame, d'aller d'île en île, se rendre compte de l'état de ces gens qui sont juste en train d'avoir les pieds dans l'eau et qu'ils sont très très mal accueillis pour pas dire d'autres mots quand ils arrivent parce qu'ils sont obligés de quitter leur île, leur famille, leurs coutumes, leur machin. Et ben quand t'es pas un peu connu, reconnu, tu ne peux pas te permettre de lancer ce genre de projet au point de ramener ces retours dans le pays occidental qui peut donner aussi envie de mieux les accompagner, de mieux les aider et de mieux les accueillir quand ils se retrouvent les pieds dans l'eau et qu'ils doivent quitter leurs îles. C'est qu'une petite goutte d'eau dans cette espèce d'énorme truc dans lequel qu'il faut régler notre problème lié à l'environnement. Mais il y a que quand je vais être connu, reconnu, que ça va me permettre et m'autoriser ça. Quand Nicolas Hulot veut lancer une fondation ou le veut lancer une grande action d'échelle internationale ou nationale, d'une action particulière, je sais pas, un mois sans aller au supermarché, enfin, je dis n'importe quoi, il est besoin d'être connu, reconnu pour réaliser ce genre de choses, pour, non pas pour se flatter lui-même, mais enfin bon, c'est quand même beaucoup plus facile de lancer des mouvements. Et moi, principalement, je vis dehors, je vois la transformation, enfin, je vois bien que ça part en sucette, donc, arrêtons que ça parte en sucette aussi vite, parce que c'est un vrai manque de respect envers tout, quoi, entre le vivant, entre tout, et au bénéfice effectivement d'une vie peut-être trop moderne. Mais notre vie moderne, elle peut tout à fait être aussi moderne, aussi perfectionnée qu'elle l'est, sans être obligée non plus de tout péter, parce qu'il y a des solutions, mais qu'on ne veut pas les mettre en œuvre. Alors si j'ai la possibilité, moi, en étant un petit peu connu grâce à ce que je fais, de pouvoir élever les consciences, peut-être de pouvoir aider des gens, rien qu'en en parlant, et que la parole soit entendue, qui peut donner un peu plus envie d'utiliser le plastique comme une matière première plutôt que d'aller l'enfouir je ne sais où, ça me ferait bien plaisir, franchement.
Donc tu vas partir 6 mois.
Ouais, 2024-2025, si j'arrive à goupiller exactement comme c'est prévu. Je voulais partir 21 pour le Pacifique, mais ça sera beaucoup plus compliqué que par rapport à l'ampleur du projet que je veux réaliser. Ce sera plutôt la fin d'une énorme odyssée des Tarkos, enfin, de ce grand projet Socrate à l'envers, hein, et Tarkos. Mais qu'en attendant, eh ben, je vais poser des belles aventures. Effectivement, elles vont peut-être être à vélo, elles vont peut-être être dans d'autres sports, mais n'empêche que le bikepacking, là, comme c'est parti, ça me plaît bien, il y en aura d'autres, mais effectivement, je veux réaliser des exploits, entre guillemets, à mon échelle, à mon niveau, pour aussi me crédibiliser dans ce domaine de l'aventure, qui puisse me permettre aussi de profiter, effectivement, d'être un peu plus connu et reconnu, pour m'autoriser, entre guillemets, la possibilité d'avoir une parole qui soit... et de pouvoir mieux m'engager encore envers tout à chacun pour porter une parole peut-être qui ne soit pas forcément rétro ou qui soit, je sais pas, décroissant ou je sais pas quoi, pas du tout, non. Moi, ma parole, c'est un peu celle de Bertrand Piccard, hein, dont je suis à des années-lumière de ce gars-là, mais Bertrand Piccard, un scientifique qui réalise des choses extraordinaires contre vents et marées. Quand tu discutes avec Bertrand Piccard, quand tu vois comment il a été critiqué dans le monde de l'aéronautisme pour monter un avion totalement autonome, il a été obligé de se tourner vers la mer, vers d'autres personnes que ceux de l'aéronautique qui lui ont foutu les bâtons dans les roues pour réaliser son projet. Alors maintenant, tout paraît incroyable, mais je veux dire qu'au début, c'était contre vents et marées, et qu'à partir de là, il a cette parole aussi qui porte même à l'ONU maintenant, auprès des scientifiques, en disant les scientifiques ont des solutions pour arrêter de forcément prendre des matières premières, en faire des truc et puis après de le balancer parce qu'il est plus, et puis on s'en sert pas. Non, il y a des solutions. Offrons la possibilité à tous ces laboratoires qui ont les solutions dans les mains, offrons-leur la possibilité de pouvoir nous rendre un monde aussi agréable qu'il est actuellement dans tous les domaines, notamment de notre confort quotidien, sans être non plus à continuer à tout bousiller, quoi, y compris les êtres humains, y compris les ressources.
Ça t'embête pas de partir 6 mois loin de tes enfants ?
Mes enfants sont grands, d'ailleurs je vis maintenant séparément à quelques kilomètres entre mes enfants, il y en a un à Strasbourg, il y en a une qui se balade dans l'Europe entière à faire du woofing, et puis il y a un dernier qui est en école maintenant interne pour travailler le bois et la menuiserie, mais non, ça ne me dérange pas. Je pense avoir passé beaucoup d'années, notamment dans le jeune âge, à mijoter un petit peu tout ça, à m'exprimer au travers de petites aventures. Quand tu pars 24 heures autour du Mont Blanc, voilà, tu t'entraînes au quotidien, t'es toujours à la maison. Maintenant que les enfants sont grands, je peux me permettre de prendre mon envol, entre guillemets, je me sens un peu plus dédouané d'une présence quotidienne et je peux m'autoriser à partir 6 mois. Après, que les enfants, en soi, ils y sont habitués. Et d'ailleurs, c'était peut-être même presque les derniers qui étaient à me demander comment je me porte quand je suis arrivé après 2 mois et demi de rame au travers de l'Atlantique. Parce que ils se doutent bien que si je suis arrivé, que comme d'habitude... Voilà, on va pas en faire des pataquès, quoi. Voilà, je suis arrivé, c'est bien. Le dessus d'une côte n'est pas une fin en soi. C'est que le début d'autre chose. Donc, effectivement, c'est tout le temps, cet état d'esprit, quoi. Oui, on est arrivé, bah, écoute, c'est bien, chouette. Profitons-en, hein, quelques instants, mais on repart vite pour autre chose. On va pas s'arrêter là, on va pas fossiliser, on va pas s'arrêter, quoi. Ça continue parce qu'il reste plus de 40 ans à vivre, quoi. Voilà. Donc, poignée dans le coin, quoi.
Tout à l'heure, tu as parlé de ta manière d'agir quand tu finissais une course, de retourner ton dossard et de passer rapidement à autre chose. Tu peux m'en reparler un petit peu ?
Ouais, ouais. Ah, ça fait toujours rire un peu tout le monde, parce que souvent, quand je me trouve en tout, les stagiaires ou les gens que j'accompagne en préparation physique et mentale, en trail ou au cours de stage de sportifs, je leur dis que c'est le boulot, mais je pourrais très bien le dire aussi à un chef d'entreprise ou un cadre supérieur. Le plus important du boulot, parce qu'on bosse quand on fait ça, je veux dire, c'est un peu notre métier quelque part, le plus important du boulot, il est sur la ligne d'arrivée, et ça doit se faire dans les moins des 15 minutes après avoir franchi une ligne d'arrivée. Tu prends ton dossard, tu le retournes. Enfin, je dis le dossard parce que c'est le meilleur bout de papier qui existe. Encore qu'en 2013, c'était un bout de paquet de chocolat parce que je ne retrouvais plus mon dossard quand je suis arrivé à l'appartement à Chamonix. Et si tu veux, c'est de tirer un trait, de faire des plus et des moins. Je mets toujours les plus en premier. Stéphane, ce que tu fais là, c'est bien. Personne ne te le dira jamais. Là, tu es fier de ce que tu fais. Ce que tu as mis en place depuis deux courses, ça marche. Garde-le. Ça, c'est bien. Là, t'es bon. Généralement, c'est deux, trois trucs. Et dans les côtés négatifs, c'est à chaud. C'est tout de suite, maintenant. Parce que deux jours après, tu vas t'en sortir des tartines et des tartines de trucs pas bien. Mais là, en instantané. Bah, par exemple, en 2013, après avoir franchi la ligne d'arrivée en 14e position de l'Ultra Trail du Mont Blanc, je note quelques points positifs. Il y a la foulée, il y a des aspects de mon entraînement ou de mon attitude ou du ravitaillement, ou ainsi de suite, peu importe. Et je note deux trucs qui étaient pas terribles que je sens au cul de la course. À chaud, je lui dis, Steph, tu as 170 km à faire, tu as besoin de rentrer dans le top 10. Au niveau physiologique, tu pourras pas y gagner grand chose. Au niveau des ravitaillements, tu passes moins de 10 minutes, un arrêt total sur tout l'UTMB. Comment tu vas faire pour pouvoir rentrer dans ce putain de top 10 pour assouvir ta cause noble personnelle au travers de ce truc-là? Il faut monter sur le podium. Enfin, voilà. Comment tu mets? Il faut que tu ailles gratter encore ailleurs. Il s'avère que cette course, il y a 9 côtes de 900 mètres de dénivelé positif, mais bon, une côte, c'est pas un espèce de trait tout droit. Tu as toujours des petits bouts de replat, 2 mètres, 3 mètres ou 10 mètres, légèrement, enfin, moins raides. Toutes ces côtes, du premier au dernier, tu les marches en montée, généralement accompagné de bâtons ou pas de bâtons. Enfin, tu ne peux pas courir après 15 heures de course à pied, même au début, dans ces côtes très très raides, tu marches. Par contre, sur ces tout petits bouts de replat, je dis putain, 2 mètres par-ci, 3 mètres par-là, recours. Ça, je le note au cul de la course. Trois jours après, je l'aurais déjà oublié. Ça, je le note au cul de la course. Et je passe toute ma saison d'après à m'entraîner de façon plus ou moins similaire. Enfin, voilà, je ne vais pas me réinventer. Je ne vais pas réinventer mon entraînement, ainsi de suite. Je modifie quelques petits trucs, mais à peine. Mais surtout, je passe mon temps, et toutes les courses qui ont précédé, je passe mon temps à recourir sur tout le petit bout de replat, même 2 mètres, même 3 mètres. Et que quand je prends le départ du Timber 2014, en arrière-pensée, j'ai cette cause noble personnelle, mais on peut pas penser qu'à ça, parce que sinon, ça te bouffe le temps. Le long terme, il a 2 mètres 50. La tête et le corps exactement au même endroit. Il est hors de question que ma tête aille plus loin que 2 mètres 50. Pas au ravitaillement, même pas au mec qui parle à côté, rien. Et surtout, je suis là pour un seul et unique truc, recourir sur tous les petits bouts de replat qui traînent de partout. À la ligne d'arrivée, je gagne 1h30, je suis 10e. Bon. Voilà aussi l'intérêt de ce genre de truc, c'est qu'au cul de la course, il est important de noter rapidement et qu'est-ce que je mets en place pour les faire passer en plus pour la course d'après. Et j'aurai le sentiment et cette fierté de dire que j'étais meilleur que le coup d'avant. Pff, c'est trop bien ça. Ça, c'est trop bien ça.
Donc, ce qui veut dire, est-ce qu'on peut gentiment se moquer des mecs qui ressortent leur publi Facebook d'un an avant pour se...
No comment. Ça,
bah si,
et la fameuse
photo... Ah si, 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 comment, au contraire, vas-y, lâche.
Ouais, c'est...
vive dans ses souvenirs, c'est pas bien.
Ouais, je trouve ça dommage et pathétique. C'est quand tu commences à avoir la tête qui reste 2 ans là, ou refaire une course en essayant de battre par rapport au temps de l'année dernière et puis à avoir les temps de passage l'année dernière pour savoir... C'est foutu, t'as déjà foutu 15%. T'as offert 15% à tous tes adversaires en mettant 15% dans l'année d'avant. Et les 15% que tu fous de l'année dernière et que tu donnes à tes adversaires, tu te les donnes pas à toi-même. Faut pas s'étonner après de la médiocrité des résultats. Enfin, par rapport à soi-même, hein, pas par rapport aux autres. Les autres, chacun fait bien comme il veut, puis il y aura toujours meilleur que toi. Donc, comme ça, le problème, il est réglé. Par contre, s'offrir la possibilité, c'est déjà tellement difficile de se tracter sur nos genres d'épreuves physiologiques au long cours que, au minimum, ce serait déjà d'avoir tous potentiel théorique du moment. Et Dieu sait qu'au bout de quelques heures, le potentiel théorique, il prend quand même une sacrée claque dans les étiquettes. Donc déjà qu'il n'est pas bien flambe, le potentiel théorique, c'est quand même pas mal de ne pas en laisser une miette, en tout cas de ne pas le jeter par les fenêtres en allant foutre sa tronche dans l'année d'avant, mettre sa tête dans le prochain ravitaillement ou je ne sais quoi. Alors vouloir ressasser ou reprendre exactement le même plan d'entraînement qui avait fonctionné pour la course d'avant, c'est une grave erreur. C'est l'impermanence des choses. Ce qui est vrai aujourd'hui sera forcément faux demain. À quelques détails, mais c'est justement dans ce petit détail qu'il faut pas laisser passer. Enfin, si la vie était exactement pareille, ça se saurait. Enfin, je veux dire, non, on ne fossilise rien. Je veux dire, c'est essentiel d'être tout le temps en train de remettre les choses en question. Est-ce que je suis d'accord et que je pense pour vrai aujourd'hui? Je n'attends qu'un truc, c'est peut-être de le modifier au gré de rencontres, au gré de quelqu'un qui va peut-être me prouver que j'ai un poil tort sur un petit détail. Je me l'introduis, je me l'incorpore et je change et j'évolue et je me dis que je vais être meilleur grâce à l'autre si je sais l'accueillir, l'ouvrir, plutôt que de le prendre toujours comme un adversaire. Alors, ressasser la photo de l'année dernière en te reprenant ou en alors, le meilleur des trucs, c'est quand tu vas demander à quelqu'un, tu vaux combien au divan de sur route? Et le mec, il te sort, je vaux 30-30. Non, non, ça, c'était il y a 10 ans, mon gars. Maintenant, tu vaux 37. C'est ça. Et tu vaux combien au divan? Tu vaux 37, tu vaux pas 30-30. Et c'est tout ça. Soyez, enfin, et je peux très bien en parler, mais je peux t'en parler des heures, parce que j'étais celui-là avant 2009. Et à partir de 2009, quand je me suis vraiment foutu à poil devant la glace, c'est que je me suis dit, mais attends, mon brogneur, t'es quoi exactement? T'es que ça. Et pars déjà de là et accepte exactement et tous les jours accepte et tous les jours et tous les jours et cette résistance aux frustrations, ça c'est lié au sport qui est très important, et à partir de là et va toujours de l'avant et sois capable de toujours essayer d'être meilleur que la course d'avant en ayant tiré la substante moelle des éléments précis que t'as trouvé sur la, et le reste la course tu la bazardes, je veux dire t'en as plus rien à faire, et du dossard et du résultat, encore pire du résultat, parce que alors ça c'est un bouffe, pensée parasite énorme. Le résultat de la course d'avant, tu crois que t'es arrivé à quelque chose, t'es arrivé à rien du tout. Tu remets tout à zéro quand tu repars. T'es à zéro. Voilà. C'est le dessus d'une côte. C'est que le début d'autre chose. C'est pas une fin en soi. Donc ça a très d'importance. Enfin, à mon goût, à mon avis.
Quand tu dis la, avoir la tête et le, alors non, attends, j'avais noté un truc avant. Non, on va faire ça. Je reviendrai sur le ravito après. Ça veut dire quoi, avoir la tête et le corps au même endroit, au même moment? Sans...
Je suis en train
j'ai failli dire une grosse connerie. J'ai honte de moi.
Ouais, vas-y.
Non, il y a une différence entre dire une connerie et faire une blague de mauvais goût qui ne serait pas une blague.
Ah bon, d'accord, ok. Je reviens à mon mythe de la, et ça je le dis à tous les stagiaires. Alors j'imagine que s'il y a certains stagiaires, certains athlètes, et notamment Benoît Gondolfi qui m'accompagne dans tous mes accompagnements d'athlètes et de stages, ça les fait toujours rire, mais finalement l'image elle est bonne. C'est bien beau d'avoir une Clio Sport, et quand tu la bazardes sur une course, la Clio Sport, si le pilote il est pas à l'intérieur, la Clio Sport elle finit toujours contre un mur. Donc avoir la tête et le corps au même endroit, la tête c'est le pilote, la bagnole, la Clio Sport. Alors il paraît que Clio Sport c'est plus à la mode, mais bon, vous ferez avec la Clio Sport, vous tous qui m'écoutez, je fais partie d'une génération, c'était Clio Sport, donc vous ferez avec la Clio Sport. Mais je pense que vous avez très bien compris. Et dès que tu commences à avoir ta tête qui se fout ailleurs que dans ton corps, et notamment dans nos sports physiologiques, je sais pas, pour un nageur peut-être lié à la technique, ou pour un coureur à pied lié à sa pose de pied, lié à son ressenti physiologique qui va lui permettre de savoir s'il peut aller jusqu'au bout ou pas de la course, lié à sa glycémie, savoir s'il est en train d'atteindre un pic de glycémie qui va lui demander certainement que c'est pile poil le moment quand l'insuline commence à attaquer cette glycémie pour éviter de faire péter le corps, c'est peut-être là où il faut manger. Mais s'il a sa tête, à combien de kilomètres il reste, combien je suis, est-ce que je suis dans mon plan de marche d'avancement, tiens le mec qui me double, est-ce que je ferais pas mieux de le suivre parce que d'habitude il a plutôt pour habitude d'être régulier et de bien finir, est-ce que tu crois que ma copine elle va être au-dessus de la côte là-haut, j'espère qu'elle va être fière de moi, ah merde, j'avais dit avant le départ que j'oubliais, enfin tu fous ta tronche ailleurs. Et dès que tu fous ta tronche ailleurs, tu t'éloignes de ton potentiel théorique, tu te fous une balle dans le pied quelque part, et en plus tu l'offres à tes adversaires pour celui qui a envie de jouer un peu la concurrence. C'est une faute professionnelle, voire une faute grave pour un sportif professionnel, ce truc là c'est, alors que tu l'ouvres de temps en temps pour prendre des informations qui vont te permettre d'analyser la situation dans laquelle tu es, d'une course particulière, tu ouvres. Là, tu sors de cette bulle totalement étanche et tu te dis, alors où j'en suis? Ah oui, effectivement. Donc, je vais un peu plus encore appuyer sur mes points forts, par exemple, en fin de foulée pour un coureur à pied, qui va me permettre de peut-être espérer, déjà que je suis au taquet, mais gratter quelques millièmes de secondes foulée par foulée qui peuvent me donner la possibilité de revenir. Mais si je passe toute ma course à focaliser sur le mec là-bas, ah, j'ai de l'avance, ah non, j'ai du temps, j'arrive pas à revenir sur lui, je me fous une balle dans le pied. Je perds encore plus du potentiel qui est déjà accessoirement par rapport à lui un peu plus faible parce qu'il a 15 mètres d'avance sur moi, sur un 10 km sur route ou je sais pas quoi. Donc non, je dois tout avoir ici, la tête et le corps exactement au même endroit. Alors on y trouve des stratagèmes. Moi par exemple, j'écoute le bruit de mes pas. Quand j'écoute le bruit de mes pas, je suis un peu près sûr d'avoir la tête qui soit pas dans ma feuille d'impôt. Est-ce que j'ai bien fermé la bagnole à clé? Est-ce que ce soir faut pas que je sois en retard pour la réunion parents professeurs? Je te dis n'importe quoi. Je suis sûr d'être ici et maintenant. Et c'est comme ça pour tout. Et c'est l'avantage aussi de la compétition. Pourquoi les gens te disent pourquoi tu fais une compétition? Déjà, c'est un événement remarquable à un moment très précis, mais surtout, tu t'offres cette grande possibilité d'avoir enfin la chance de pouvoir être totalement égocentrique et narcissique par rapport à toi-même. Ça veut dire que tu t'es payé un droit d'entrée dans un événement qui te donne le droit de ne penser qu'à toi-même et qu'à ce que tu es en train de faire en ce moment. Alors quand je entends les athlètes me dire qu'ils pensent à ci, qu'ils pensent à mi, qu'ils ont la tête, je dis mais alors que la notion de bonheur, elle n'est qu'à un seul et unique moment. Le bonheur, il est quand tu as la tête et le corps exactement au même endroit. En boîte de nuit, je vois très peu de personnes malheureuses. La musique est forte. Toutes les personnes qui sont en train de danser sur ces boîtes de nuit, enfin, je ne sais plus trop comment ça se passe parce que je ne suis plus allé depuis au moins 30 ans, mais enfin, peu importe, c'est des personnes qui sont heureuses. Je vois personne de malheureux dans une boîte de nuit. Donc, ils ont la tête et le corps au même endroit. D'ailleurs, tu prends tous ces jeunes hommes et ces jeunes femmes au milieu de la piste de danse et tu leur dis... À quoi tu penses? Que j'adore la musique, que je dansouille avec mon copain, ou je suis en train de dragouiller quelqu'un, ou que je saute partout. Enfin, la tête et le corps exactement au même endroit, ces gens sont heureux. Un manège à sensations. D'ailleurs, si tu veux faire du pognon, il faut créer un truc où tu mets la tête et le corps des gens de façon un peu sous forme de forceps. Ici et maintenant, ça marchera forcément. Parce que tu es heureux quand t'as la tête et le corps exactement au même endroit. Et puis, dans cette même boîte de nuit, tu as une personne qui est assise sur un banc là-bas et qui fait une gueule comme 15 culs et tu lui dis, mais qu'est-ce qui va pas? Elle a le corps physique et dans une boîte de nuit. La musique, elle l'aime. Elle est avec ses amis. Il n'y a pas de problème. Tout y est. Sauf que sa tête, elle est, j'ai mon petit copain, il y a 2 heures, qui m'a largué, tadadi, tadada. Sa tronche est ailleurs. Elle est malheureuse. Donc, ça veut dire aussi que il y a un double intérêt d'avoir la tête et le corps au même endroit dans ce que l'on fait. Déjà, il y a une notion de performance. Tu es, notamment dans le sport, mais aussi bien que quand tu plantes un clou ou éventuellement quand tu joues une partition de Mozart à la clarinette, tu sais que tu vas être le plus performant, enfin assez proche de ton potentiel théorique. C'est ce qui fait aussi la définition même de la pensée parasite, j'allais dire, mais aussi de la préparation mentale. Et surtout, tu as une notion de bonheur. Plus tu fais quelque chose en étant proche de ton potentiel théorique, plus tu passes un bon moment. Alors quand j'entends souvent et quand je vois sur les réseaux sociaux ce genre de petit phénomène où il est écrit ce type qui va te mettre la photo sur le lit là avec le dossard, les gamelles, le sac à dos, machin, et que tout le monde lui dit « bravo à toi, bonne course pour demain » et surtout « fais-toi plaisir ». Je voudrais bien que les gens qui mettent « fais-toi plaisir », c'est surtout « j'adorerais pouvoir me faire enfin plaisir sur une course » et comment il faut faire. Si tu as la recette, je la veux bien. La recette, elle est simple. Elle n'est pas de gagner la course. Elle est d'être du départ à l'arrivée proche de son potentiel théorique du moment, être dans son niveau optimum moyen, capable de faire ce que j'ai acquis au fur et à mesure d'entraînement, d'années, de génétique, ainsi de suite, mais d'être proche de ce que je suis. Et quand tu es proche de ce que tu es, tout au long de la course, du départ à l'arrivée, que ta tête et le corps est au même endroit, quand tu passes la ligne d'arrivée, que tu sois premier, que tu sois dernier, et d'ailleurs tu vois des gens terminer au cul de la course dans un UTMB et être très heureux. Parce que tout au long de la course, ils étaient dans leur niveau optimum moyen. Et t'as les mecs qui terminent 10e, qui te disent ils sont en travers parce qu'ils ont passé la moitié de leur course, ils ont des compétences énormes, même pouvoir gagner, et qui ont passé la moitié de leur course à passer leur temps à demander à leur assistance « Et combien il est de kilomètres devant ? Et je suis en retard ? Et combien de temps j'ai par rapport à mon temps ?» Il fout du potentiel par la fenêtre. Et il passe à une, il dit « Ah, j'étais capable de meilleur. » Mais ouais, t'étais capable de meilleur si ta tête était restée dans ton corps et qu'il n'y en a pas une partie qui était foutue, je ne sais pas où, le camp. Voilà.
Je sais pas quoi dire. Voilà. Tu vois, ça arrive des fois. Des fois j'ai une petite panne. Les anglophones appellent ça un pet cerveau. Voilà. Je viens d'en faire un, tu vois, brain fart. Voilà, je sais pas quoi dire. Je vais enchaîner directement. Tu me dis que tu t'arrêtes, ça reviendra. Mais ceux qui écoutent habituellement savent que. C'est normal, rien, tu vois, ça fait un petit peu le petit coup de mou aux trois quarts de l'épreuve, et puis après ça repart. Tu t'arrêtes sur l'UTMB, tu ne t'es arrêté que 10 minutes au total d'arrêt au ravito, et cette expression, je la dédie à toi, et je n'ai même pas besoin de dire le prénom, tu sais très bien que c'est pour toi. Il le sait.
Bon, parfait. Message envoyé à celui qui a envie de le recevoir, alors.
Il l'a déjà reçu, il le sait très bien. Allez, d'accord. Donc 10 minutes d'arrêt. Allez, vas-y.
C'est aussi une des clés que j'étais obligé. Toutes les personnes qui couraient autour de moi dans ce sport et dans cette course sont des gens qui courent plus vite que moi. Donc, si je veux arriver à la ligne d'arrivée en même temps qu'eux, voire un peu mieux qu'eux, voire pas trop loin d'eux, j'étais obligé d'aller chercher ailleurs les réponses. Et notamment, effectivement, quand tu es arrêté, alors c'est très très con ce que je vais dire, je vais te faire du vent d'âme là, si tu veux bien. Quand tu es arrêté, le chrono il tourne, mais la distance elle réduit pas. Donc, il était essentiel de trouver le moyen de ne pas s'arrêter. De faire du pas vite mais tout le temps, parce que je suis un pas vite mais tout le temps, et mais tout le temps. Donc quand t'es arrêté à ravitaillement, le tout le temps il fout le camp. Donc fallait tout le temps être en mouvement, tout le temps en avancement, même en marchant, tant pis. Donc les ravitaillements, effectivement, les ravitaillements où je n'avais pas d'assistance, je savais que je remplissais deux flasques et je prenais deux trois petits trucs à bouffer, même si j'avais prévu d'un endroit d'assistance avec assistance, d'un ravitaillement avec assistance à un autre, suffisamment de nourriture, mais j'en profitais, notamment je remplis mes flasques, je prenais une banane et je bouffais ma banane en marchant à la sortie de ce ravitaillement, donc on peut dire quasiment je m'arrêtais pas. Et par contre, dans les ravitaillements avec assistance, deux fois où je m'assois pour envoyer une gamelle de riz très très cuite, alors la nuit c'est un coup de bouillon et un coup de lait d'amande avec du riz quand il faisait jour, et sinon le reste du temps c'était changer les flasques, reprendre le nombre de barres ou le nombre de gels, voilà, c'est la manière dont on se nourrissait dans ce sport là pour aller un peu plus loin. Et surtout rebelote, je ressortais, donc ça durait 1 minute 30 à tout casser deux fois, et le reste du temps c'était de ticket de toc dans les ravitaillements, et je repars avec ma banane à la main, je la mange, les fourmis seraient très contentes de s'en régaler avec ma peau de banane, là je n'ai pas grand danger de faire grand mal à la nature, et puis à partir de là, je ne m'arrêtais pas, et j'espérais, enfin en tout cas je n'avais rien à me reprocher sur mon avancement en disant au moins voilà déjà un des secteurs sur lequel je peux jouer qui est assez facile à jouer, vu que je ne peux pas jouer plus que ça sur mes qualités physiologiques ou de coureur à pied, voilà.
Du riz très très cuit, pourquoi ?
Parce que du riz à moitié cuit dans une gamelle, alors je sais que les qualités nutritionnelles sont peut-être moindres, mais en tout cas quand tu as envie d'avaler ça à fond la caisse, qui est dans le fond d'une thermos, qui bouillonne là-dedans, quand il est pas vraiment très cuit, je peux te dire que quand il est coincé dans la gorge et qu'il arrive pas à passer, c'est une catastrophe. Donc du riz très cuit, c'est pas de la bouillie, mais rempli avec du bouillon, il y a plus de bouillon que de riz pour que tu puisses l'avaler, presque le boire, c'est quand même beaucoup plus commode, et je sais que ça va se digérer très rapidement. On n'est pas là pour faire une marche gourmande ou se faire de la gastronomie, de l'information. En tout cas, il ne fallait pas venir là-dedans. Vaut mieux y aller tranquille, se faire un relais château à coup de petites balades entre chaque. Mais le but, il est franchement d'envoyer du carburant, basta. On n'est pas là pour autre chose. Donc, envoyer du carburant, et du carburant en sachant que quand le carburant il arrive dans l'estomac, c'est une consommation énergétique énorme. Donc, on va déjà un peu lui pré-mâcher le boulot, quoi. Donc, si ça pouvait être quelque chose qui soit déjà pré-mâché, pré-digéré, et que ça passe, ça devienne vite en très petites molécules qui passent vite dans les pores de l'intestin et du gros intestin, roule casquette, quoi, j'ai envie de te dire. Donc effectivement, très cuit dans du bouillon, je sais que ce sera vite passé, entre guillemets, et vite utile en jouant sur toutes les formes de glycémie. Alors effectivement, du riz, de la pomme de terre vont plutôt être dans les sucres, qu'on va dire les sucres lents, c'est-à-dire qu'ils vont faire monter la glycémie de façon très pente douce, plutôt qu'un gel, où en une demi-heure, le gel, il est dans le sang et il a fait monter une glycémie de façon très rapide. Alors, le seuil maximum de la glycémie restera toujours le même parce qu'il arrive un moment, arrivé à un certain taux de glycémie, l'insuline, elle en envoie parce qu'elle s'est dit, bonhomme, il n'en faut pas de toi, sinon tu vas te faire péter le caisson. Donc, du coup, à ce moment précis où l'insuline commence à attaquer, et c'est un moment très particulier, ça, et ça, c'est un moment qui n'est pas toujours identifié, et c'est pourtant le moment clé dans la glycémie et dans la gestion de la nourriture dans ces épreuves au long cours. C'est pile poil le moment où tout va bien. Et ça, j'ai pas besoin de le dire à un cycliste, j'ai pas besoin de le dire à un coureur à pied, c'est que quand il commence à courir, il arrive un moment, au bout de trois quarts d'heure, une heure, ou je ne sais combien de temps, il dit, oh là là, tout va bien, et si ça pouvait durer toute la course comme ça, ce serait génial. Rien qu'en disant ça, je pense que tous les personnes à l'autre bout du fil, quand ils vont entendre ça, vont dire, ouais, j'ai bien connu ce moment-là, on l'a tous connu. C'est pile poil le moment où l'insuline commence à attaquer la glycémie qui commence à être un peu trop. Donc on est dans un pic de glycémie, c'est juste bonheur. C'est un peu euphorisant et tout va bien. C'est pile poil le moment où il faut manger. Parce que l'insuline, elle va tout faire pour le faire redescendre, et en plus, le corps va en consommer. Donc c'est pile poil le moment où il serait bien d'en remettre une petite couche. Alors, plutôt quand on est au long cours sur des choses qui peuvent peut-être, alors où il y a plusieurs stratégies, où j'en envoie que du sucre rapide, mais alors de façon très très régulière là pour le coup, parce que il la monte vite, il la baisse vite, donc il faut en remettre souvent, OK, ou on y va dans quelque chose, dans un mode de fonctionnement, en disant, bah, écoute, je vais y aller sur un sucre lent. Ah ouais, attends, je me sens pas trop mal. Allez, j'envoie une patate, une barre, et puis ça va encore reprendre, ça va repartir peut-être pendant trois quarts d'heure, une heure, en fonction du jour, de la nuit, d'état de fatigue, montée, descente, c'est variable. C'est pour ça que celui qui me dit, je prends une barre ou un gel tous les 45 minutes, je dis, comment tu sais que ton corps humain, toi, il fonctionne comme ça, comme une machine de l'usine? Non. Il y a des hormones, il y a de la fatigue, il y a de la montée, il y a de la descente, il y a du jour, il y a de la nuit, il y a de l'homme, il y a de la femme, il y a incapable d'avoir une vérité là-dessus. Enfin, par contre, il faut le ressentir. Et c'est sûr qu'il faut pas avoir sa tronche ailleurs, que ici et maintenant, pour ressentir ce moment, dire, tiens, allez, j'y remets un coup de patate, j'y mets un bout d'yabon, une barre, qui nous plaît, ainsi de suite, je sais pas, j'y mets un bol de riz, j'y mets ce qu'on veut, un sucre lent, et voilà. Bon. C'est la manière, si tu voulais aborder un petit peu ce principe de la nourriture, voilà un petit peu comment je gère ce truc-là. Et pour aller vers là-dedans aussi, c'est ce que je dis aussi souvent à mes athlètes, je prends quand même des gels. Alors, j'entends souvent, ouais, moi, les gels, ils passent pas. Alors, le gel, et je pense que ce sport émergent, même si ça fait un petit moment, qui s'appelle le bikepacking, comme on peut voir, ce long cours en vélo, qui est un peu notre sujet aussi aujourd'hui, est un sport un peu émergent, mais en ultra-trail, il y a longtemps qu'ils l'ont compris. Et les mecs qui prennent des gels, généralement, tu prends un gel quand ça va pas. Et bah, du coup, le corps, il est pas con. Ça veut dire qu'après, quand tu vas prendre un gel, ça veut dire que ça va pas. Donc, le gel, il risque pas de passer, hein. Mais ça pourrait faire pareil. Si quand ça va pas, tu prends, je sais pas, un verre de sirop grenadine, promets-moi qu'au bout de trois courses, le sirop grenadine, il passera plus du tout non plus. Parce qu'il va assimiler ça avec, oula, c'est quand ça va pas. Donc, du coup, bah, forcément, il a pas une bonne image, le gel arrivé dans le corps. Et pourtant, il a une super action. Ce truc, amener un sucre rapide, ça, c'est génial, quoi. Enfin, je trouve ça super. Il est capable de remonter une glycémie assez rapidement. Donc, généralement, ça vaut le coup de le prendre au pied des bosses. Enfin, moi, je le prends au pied des bosses. Et là, je vais tenter sur le biking man en Corse de le prendre au pied des bosses. Parce que je sais qu'une bosse, ça dure, une durée d'action d'un gel, c'est une demi-heure. Donc, ça veut dire, et puis en bosse, t'as pas toujours le loisir de bouffer. Donc, ou le temps, aussi bien en vélo qu'à pied. Donc, ce qui veut dire aussi que pour combler la faim des bosses, c'est toujours assez intéressant d'avoir eu un coup de gel avant, pic de glycémie arrivé au bout d'une demi-heure, je suis pas loin d'arriver au-dessus, ça m'offre aussi la possibilité d'éviter d'avoir ce trou. Voilà, c'est voilà la manière dont je gère aussi l'alimentation et surtout à l'entraînement. Un truc qui est pas toujours facile à comprendre, le corps est de nature plutôt feignante et quand on s'entraîne et effectivement, dans nos sports, que ce soit du trail sur le long cours ou que ce soit du vélo au long cours, il arrive à un moment, on ne peut pas tenir longtemps, que le corps a besoin d'énergie, et notamment de carburant, et notamment de sucre, de glucose, rapide, lent, enfin, on s'en fout. Il a besoin de sucre. Et qu'est-ce qu'il va faire au bout d'un certain temps? Il va tirer la sonnette d'alarme et dire « Hey, bonhomme, tu voudrais pas m'envoyer du sucre ?» À l'entraînement. Je parle là bien de l'entraînement. Il dit « Dis donc, bonhomme, tu voudrais pas m'envoyer du sucre ?» Alors, l'athlète moyen, entre guillemets, ou le type qui se dit, ben oui, après tout, il a besoin de sucre, qu'est-ce que je lui fais? Je lui donne un bout de sucre, moi. Alors, je lui donne un sucre, une pâte de fruits, un machin, on s'en fout. Et puis, eh ben, le corps est comblé. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas été obligé d'aller chercher dans les réserves qui sont à peu près disponibles dans tout le corps sous forme de graisse et de les transformer pour pouvoir les dissoudre et puis les transformer pour pouvoir recevoir ça au niveau du il n'est pas obligé de faire l'effort. L'autre, il lui en a envoyé en plus du rapide. Bonheur. Et puis, ainsi de suite. Alors ça, c'est une stratégie, sauf que quand tu vas rater un pic de glycémie dans une course, eh ben, tu te retrouves comme un con parce que le corps n'est pas habitué à cette gymnastique d'aller chercher dans les réserves. Et généralement, ça termine à moitié en croix, à moitié hypoglycémie, être prêt à bouffer de l'herbe sur le bord de la route. Donc, du coup, ce que je fais à l'entraînement en trail et aussi bien en vélo, alors en vélo, je pousse un peu jusque 4 heures, en course à pied, je pousse jusque 3 heures de temps, je me refuse de bouffer. Et je peux te dire qu'il y a une paire de séances à pied, notamment au début quand j'ai mis ça, où je terminais sur un faux plat descendant à moins de 4 km de chez toi, tout blanc, en travers, parce que je ne voulais pas donner raison à mon corps. Et il t'envoie tous les signaux du monde. Il commence par te dire, dis donc, tu veux pas m'envoyer du sucre. Et puis t'insistes, non, je t'en donnerai pas. De toute façon, j'en ai pas pris pour être sûr de pas en prendre. Et puis après, il va commencer à te mettre une saucisson des jambes qui commencent à guidonner. Et puis après, tu commences à être vraiment mal, à être tout blanc. Et puis tu commences à être franchement mal au point d'être obligé de marcher en descente, limite de te mettre assis. T'es à 4 bornes de chez toi, t'es en croix complète. Et non, je buterai pas. Puis au bout d'un moment, il dit, putain, merde, con, il me le donne pas, je suis obligé de faire l'effort d'aller chercher dans les réserves. Et il met en place une mécanique d'aller chercher dans les réserves, parce qu'il sait le faire, mais il est obligé de le faire et ça te fait chier. Donc il aurait bien voulu plutôt t'envoyer des signaux, il va bien craquer avant moi. Non, tu ne craquerais pas avant toi, merde. Et il met une fois, le coup d'après, oh merde, il me recommence, bon allez, je vais chercher. Et après, il prend l'habitude de le faire. Et ce qui veut dire aussi que quand tu es en compétition, et notamment là sur un biking man, j'imagine que ça va m'arriver une paire de fois, vu que je ne connais absolument pas cette discipline, que je ne sais pas comment les gérer, ces trucs-là, malgré mon expérience dans le trail, eh ben je vais me prendre les pieds dans le tapis une fois, deux fois, voire trois ou quatre fois, à sauter les pics de glycémie. et à me retrouver dans des situations plus qu'inconfortables. Et j'espère que mon corps a pris l'habitude de ce truc-là. Il ira chercher un peu dans les réserves pour atténuer un petit peu ce pic de glycémie que j'aurais fait péter, quoi. Ou que j'aurais oublié, ou que j'aurais, pour des raisons X ou Y, trop attentionné à la route, trop attentionné à mon GPS, ou à je ne sais quoi.
On reviendra sur ces trucs, sur ces aspects un petit peu plus tard. J'aimerais terminer sur la notion de bonheur. Ça y est, j'ai eu une illumination. Je crois avoir compris, ou alors soit j'ai mal compris, soit j'ai compris de travers. T'aimes pas le sport, en fait. T'aimes pas trop ça, finalement.
Ah, génial, génial, parfait. T'es bon. Effectivement, ça, et ça, c'est... Et c'est exactement, et ça c'est un vrai problème. Ça veut dire, quand tu veux être très performant, et en tout cas quand tu veux donner le meilleur de toi-même, ne pas forcément avoir d'affect avec ce que tu fais, ça te permet de pouvoir aller dans les zones qu'il est nécessaire d'aller pour pouvoir parvenir à toucher les étoiles, j'allais dire, enfin, par rapport à toi-même, hein, pas par rapport aux yeux du monde. Et aller dans les zones qu'il est nécessaire d'aller, si tu as de l'affect et si tu es juste là pour prendre du plaisir, tu n'y vas jamais. T'es pas maso, t'es pas débile. Enfin, je veux dire, c'est évident. Évident. Donc, effectivement, t'as touché le... Non, mais plein pot. C'est pile poil, en plein mille. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Par contre, moi, je suis vachement attiré et ce qui me plaît le plus dans les activités, c'est les toucher par moment. En course à pied, le toucher de pied au niveau du sol, adapté à l'environnement dans lequel je me trouve, quand ça monte, quand ça descend, ainsi de suite, j'adore. Un peu comme en escalade, se toucher, je kiffe ce genre de truc. Mais le sport par lui-même, partir à 18h un vendredi soir fin août pour faire 170 km deux jours comme de nuit à soute à moitié sur la tronche pour revenir au même endroit le lendemain complètement en travers à pas marcher pendant une semaine, enfin le type qui me dit j'aime ça, comment te dire, j'ai un vrai problème là, je comprends pas tout, tu vois. Donc effectivement que t'as plutôt intérêt à aller chercher ailleurs, et que la notion de trouver cette notion de bonheur liée à être proche de son potentiel, qui est quand même une des vérités, c'est pas moi qui l'invente, ça se vérifie rapidement, que ce soit un bricoleur, un musicien, un cuisinier ou je sais pas quoi, là, et s'autoriser même ce moment de flow quelque part, ah ça oui. Non, mais t'as vu tout juste, effectivement. T'as plutôt intérêt à ne pas passer ton temps à aimer ce que tu fais. Quand tu aimes ce que tu fais, je sais pas, aller à un concert, rigoler avec les potes, faire des trucs, des machins, t'es totalement là, ça te plaît, c'est top, c'est machin. Mais on n'est pas du tout dans le développement personnel, on n'est pas du tout dans la même chose. Et d'ailleurs, pratique le sport des gens qui ont différentes manières de l'aborder. Mais moi, effectivement, la manière dont je le pratique, c'est exactement comme tu le dis. C'est pas parce que j'aime le sport, pas du tout. Aimer le sport, c'est effectivement aller jouer au foot avec des potes. Ça va me plaire. Tu joues au foot avec des potes, t'es dans une forme de plaisir liée à une activité physique, de jouer au foot avec ou un basket, plutôt le basket que le foot, moi, peu importe. Et rien à voir avec ce que l'on va faire. Moi, effectivement, sur un biking man, sur 850 km, je vais... Alors déjà, je vais prendre des décors plein la tronche, parce qu'en vélo, on peut s'autoriser un peu plus qu'en course à pied, de pouvoir apprécier des clichés, j'ai pas besoin d'y passer deux heures, mais je veux dire de prendre des, j'ai un énorme album photo, je veux dire dans ma tronche, hein, plus que dans mon téléphone, ça je te le dis, ça c'est sûr, peut-être que ça, mais surtout de sentir toute cette mécanique scientifique quelque part, de sentir que je suis au plus proche de toi-même, de trouver des solutions pour être meilleur et tout, c'est un super jeu, ça. Enfin moi je trouve ça juste plus kiffant que de faire tomber les pistons dans les pédales de jour comme de nuit, quoi. Dire, effectivement, ça fait partie du jeu, mais c'est pas le plus important, ça c'est net. Hein.
Tout à l'heure, tu parlais des plans d'entraînement. Je suis pas entièrement d'accord avec ta théorie, notamment pour les gens qui suivent. Alors évidemment, ceux qui suivent aveuglément un plan d'entraînement, mais ça me paraît quand même indispensable pour ceux qui sont un petit peu plus néophytes et ceux qui ont besoin de
bien
savoir
sûr, plus ou moins
où aller. Mais quand tu donnes l'exemple d'un Kylian Jornet, d'un comment s'appelle-t-il ce coureur chevelu qui court torse nu Anton Krupicka. Évidemment que ces mecs-là n'ont pas de plan d'entraînement, mais ils font que ça avec une conscience aiguë de leurs sensations et ils développent justement, comme tu disais tout à l'heure, des compétences au quotidien. Quand on voit Anton Krupicka grimper,
non.
C'est plus de la course à pied,
oui,
mais ils développent autre chose.
Ah
ils développent
ouais,
autre chose.
Non. Tout est calculé de façon interne. Moi, je veux dire, les personnes qui regardaient la manière dont je m'entraînais pourraient dire, ah bah dis donc, il fait un peu comme ça, au feeling, aux sensations, machin. Tout est dans la tête. Le plan d'entraînement, il y est, mais au millimètre, bien au contraire. Alors, l'aspect extérieur n'est pas du tout dans le conventionnel, comme on peut imaginer avec, effectivement, beaucoup de séances de basse intensité liées à l'aérobie, mais après avec des séances spécifiques qui se ressemblent toutes, liées à, je sais pas, de la VMA courte, de la VMA longue et tout. Mais tout ça, il est fait, mais le fond est exactement la même. La forme est totalement différente. Et elle est totalement liée à lui-même. C'est pas le matin, je me réveille et je me dis, tiens, comment je vais faire? Surtout quand tu es dans une notion de rendement optimum pour aller gagner des grandes courses internationales. Il est hors de question de ne pas avoir un plan d'entraînement beaucoup plus précis que n'importe qui, mais beaucoup plus adapté à toi-même et qu'il est dans la tête. Il est très, très précis. Mais alors, t'imagines même pas. Mais d'un œil extérieur, tu dis, oh, bah, il s'est levé un matin, il a eu envie de partir monter très raide sur son caillou. Ah, bah, tiens, il a eu envie de faire. Non, non. Tout est calculé. D'accord. Et tout est déjà écrit dans la tête.
Okay.
Évidemment.
C'est juste
évidemment
la manière dont tu l'as exprimé qui pouvait laisser penser que tu avais laissé tomber tous les trucs vraiment calibrés qui, certes, ne fonctionnent
pas. Ils se font.
Qui peuvent fonctionner,
mais
pas pour tout le monde.
Ah, ben. Ah, mais ils sont essentiels parce qu'un corps humain, une mitochondrie est une mitochondrie. Que tu t'appelles Pierre, Paul ou Jacques, une mitochondrie
ou
est une mitochondrie. Ou qu'il y a une journée. La mitochondrie fonctionne de la même manière. Et pour la développer, et pour développer certaines qualités liées à l'assimilation d'être capable de supporter un acide lactique de haute dose, d'être capable de ah bah ça, la vérité, un être humain, c'est un être humain. Et le fonctionnement physiologique d'un être humain, il est le même pour tout le monde. Donc, pour développer certaines qualités, mais justement, quand tu les fais sans être de façon bête et méchante, entre guillemets, d'une séance très calibrée que tout le monde pourrait avoir, sinon tu t'entraînes comme Ghebreselassie, puis tu fais 2h04 au marathon. Non, chacun a besoin d'aller vers sa propre méthode technique, et c'est là où l'accompagnement des athlètes que je fais au quotidien est d'aller un petit peu leur donner effectivement un cadre, un squelette d'une construction de saison en respectant justement certaines notions liées à la physiologie humaine sur une saison, sur une année, avec des chocs, des dominances hormonales, des besoins, des moments de creux, des moments de haut, enfin peu importe. Et après, au quotidien, d'aller chercher des solutions qui ne soient pas toutes faites, mais qui sortent d'un tableau Excel ou qui pourraient sortir d'Internet. Non, trouver des solutions en rapport, notamment, et j'entraîne le lambda de la même manière que je pourrais entraîner un sportif de haut niveau. Ça veut dire que essayer d'un jour ou l'autre de donner le meilleur de soi, mais en fonction pour le lambda ou pour un coureur moyen, peu importe, il a envie de donner le meilleur de soi en fonction de ses endroits d'entraînement, en fonction de ses horaires, de sa vie familiale, sociale, ainsi de suite, associative. Il a besoin, et en fonction de ses grosses périodes de boulot, mais n'empêche qu'on joue avec toutes ces composantes pour être capable de lui proposer ce jour-là une séance qui va quand même aller actionner un certain type de filière, parce qu'il est nécessaire à ce jour-là ou dans ces 2-3 jours-là d'actionner pendant cette période-là un certain type de filière énergétique, par exemple, mais de le faire en fonction de tous ces éléments, et la manière dont il va le faire ne sera pas du tout adaptée avec son voisin 3 km plus loin parce qu'il a une autre vie, mais qu'on va utiliser, mais que l'objectif pour l'enseignant et le but pour l'élève n'est pas le même, mais que le résultat physiologique sur la mitochondrie sera le même. Mais vu que pour l'un, et à chaque fois, c'est un accompagnement personnalisé, il sera adapté à cet athlète avec tout son environnement, le retentissement et l'effet sur le corps sera beaucoup plus bénéfique que d'avoir fait une séance lambda que n'importe qui pourrait faire, qui n'est pas totalement individualisée. Mais le résultat sur la mitochondrie, le résultat sur la physiologie sera le même que le même athlète à 3 km de là, avec une autre vie, par exemple, parce que lui, il est en ville, ce sera dans les escaliers plutôt que éventuellement de le faire sur le terrain, enfin, j'en sais rien. Et le retentissement, déjà, lui serait plus parlant parce qu'il a vraiment l'impression que la séance a été faite pour lui et pour personne d'autre, et que le retentissement sur l'athlète sera beaucoup plus bénéfique, même le retentissement physiologique. Ah ça, c'est indéniable.
Pour le Biking Man, t'as poussé à combien? C'est quoi ton maximum d'heures de sel?
J'ai fait un 330 bornes pour aller rejoindre un copain, parce qu'après on faisait en 2 jours 6000 mètres de dénivelé positif en courant. Et lui, il a été en bagnole, et puis moi je me suis dit, comme j'ai un peu de jours, je vais y aller en vélo. Donc je suis parti de Rochesson et je suis allé jusque Fuilly en Suisse. Ça faisait 335 km et j'ai fait ça au mois de début août, je crois.
D'accord. Voilà. Est-ce que tu as rencontré, parce que tout à l'heure tu as parlé de situation inconfortable, et le vélo après quelques heures peut être une situation extrêmement inconfortable, évidemment, au niveau du cul. Parle-moi de ton cul, tiens, si on peut dire. Comment ça s'est passé à ce niveau-là?
Putain, c'est
intime, hein.
Con, ce sport. Et...
c'est intime, hein, dis donc.
J'aimerais bien que ça le soit pas, parce que putain, c'est quand même une horreur, cette histoire. Alors, effectivement, ouais. j'ai un peu tout épluché. Alors, personne veut se mouiller, hein, dans l'histoire, mais ils ont bien raison, et je crois que la vraie théorie, elle est celle-là. Il suffit d'y trouver sa bonne selle. Alors, il suffit de trouver la bonne selle avec le bon cuisseur. J'ai reçu des tas de petits messages, tous gentils les uns comme les autres. Chacun y allait de sa petite théorie. Et effectivement, il était vraiment nécessaire de trouver une selle qui puisse être le plus adéquate possible. Alors, j'ai essayé plusieurs choses, et quand Maxime m'a amené le vélo. Le vélo est équipé d'une selle évidée, je me souviens plus la marque sur lequel c'est dessus, et je me suis posé dessus. On a été faire 20 bornes, le lendemain j'ai fait 100 bornes, je dis oh. Et pourtant j'avais pas un cuisseur d'une grande qualité, et bizarrement je n'ai plus du tout mal au cul, en étant même légèrement avancé, évidé au milieu main. Je me souviens plus de la marque de cette selle. Je pourrais te la redonner, mais je ne peux pas te la donner là. Mmh. Et tout de suite j'ai été posé dessus, je me suis dit ah, effectivement ils avaient bien raison, parce que moi j'étais parti dans l'idée, j'avais vu Steven Le Yarrick, j'avais eu un copain traverser la France avec des selles plutôt cuir, ou plutôt, j'ai dit ah oui effectivement c'est peut-être une très bonne idée, ça va se faire à ma morphologie. Mais je voyais d'autres coureurs, notamment Laurent qui a gagné Oman, voilà, qui avait une très belle explication après sa victoire d'ailleurs, qui m'a beaucoup beaucoup plu, quand il explique la manière dont il était parti avec ses gels, qu'il optimise comme ci, il optimise.
Exactement,
comme ça, je dis, c'est
ouais.
Marrant parce que
tout à l'heure tu en parlais, je pensais à Laurent, je savais pas que tu l'avais écouté.
Ouais. Ah, je l'ai écouté, et c'est marrant parce que cette démarche qui est utilisée, qu'il était en train de dire, c'est une démarche que je voyais les coureurs d'ultra trail dans les années 2006-2007 avoir. Alors, chacun arrivait avec sa petite révolution qui est devenue maintenant un langage commun. Je veux dire, quand je commence à dire, je m'arrête pas. Et moi, quand j'entends les gars, je m'arrête à l'hôtel, je m'arrête au resto, je m'arrête à la supérette, je m'arrête. Je dis, bon, vache. Je dis, effectivement, en 2005, en ultra trail, les mecs s'arrêtaient de partout. Ils s'arrêtaient dans les refuges, ils s'arrêtaient. Maintenant, on va dire jusqu'au 300e, si le mec s'arrête, je veux dire ça. Et puis, il embarque tout et ainsi de suite. Donc, je pars avec 40 gels, le machin. Alors, ça peut paraître extraterrestre, mais ça va devenir une norme. Alors, lui, il avait une selle totalement évidée, là, avec, en ayant rajouté un petit truc de gel. Et enfin, chacun, il va de sa petite soupe. Et effectivement, je crois que, un peu comme les baskets ou un peu comme le reste, ce qui va à l'un va pas forcément à l'autre. Alors, là, j'ai l'impression d'avoir, et je me suis persuadé que ça ne sera pas encore le modèle définitif, mais qu'il faut en passer des selles. Le fait de se dire, faut se faire le cul et ça ira très bien comme ça, je pense pas que ce soit une bonne théorie, à moins d'être totalement maso. À ce moment-là, ils ont qu'à carrément retirer la selle, comme ça, ils seront convaincus. Mais sinon, je pense qu'effectivement, il faut en essayer plusieurs. Et là, pour le coup, j'ai découvert que celle que j'avais avant sur mon Lapierre, vélo de route tout à fait classique, qui avait une selle plutôt carbone, plutôt... bon, effectivement, j'étais pas forcément des plus à l'aise dessus, et que là j'ai une selle où je me sens beaucoup mieux dessus, et bizarrement c'est pas en ayant le cuisseur le plus cher et avec la peau soi-disant la mieux qui avec lequel je suis mieux dessus, comme quoi il y a absolument pas de vérité liée généralement à ma génétique de mon arrière-train, comme tu en prenais des nouvelles. Mais jusque là il va plutôt pas mal, je suis pas sûr que dans une semaine tout pile il ira aussi bien que ce qui va bien aujourd'hui. Voilà.
Bah, tu n'oublieras pas de lui faire une petite toilette, parce que le rasage du cucu, c'est très important, ça évite les irritations, si tu ne le savais pas. Mais je pense que tu le savais.
Ouais, je le savais. Bah, je m'en suis vite rendu compte parce que je me documente. Je peux te dire que ma compagne passe les plus belles soirées de sa vie à bouffer à peu près tout ce qui peut se traîner en podcast et en lien à YouTube.
J'ai eu peur.
Parlant de...
Je croyais que tu lui faisais bouffer, tu lui faisais des sandwichs avec tes poils. avec une tranche de seigle.
Le vélo, elle me dit, t'es gentil avec ton vélo, mais putain, c'est pas possible. Enfin bon, voilà.
Ouais, mais c'est passionnant. Elle supporte, elle?
Ah ouais, elle supporte très... tu veux dire la selle ou...
Tes excès et tout, etc.
Oui, bien sûr, mais je suis celui-là, c'est mon personnage aussi. Enfin, je veux dire, c'est ma vie. Enfin, voilà. Mais comme tout à chacun, est-ce que finalement on préfère pas être avec quelqu'un qui vit pleinement sa vie et qui est heureux, plutôt que d'avoir quelqu'un qui fait semblant d'avoir une vie qui pourrait convenir à l'autre? Je suis comme ça. Enfin, je veux dire, voilà, je suis comme je suis. Est-ce que c'est pas plus facile de sentir quelqu'un qui déborde d'énergie positive parce qu'il vit ce qu'il a envie de vivre et qui vit comme il a envie de vivre? Voilà. Et puis qu'à la limite, t'es pas la compagne par hasard, et inversement. Enfin, je veux dire, sinon, tu choisis une autre compagne. Voilà.
Et sur ce Biking Man, les discussions matrimoniales, je les garde pour plus tard. Tu vises quoi au Biking Man finalement? Tu vas essayer de finir ou tu veux quand même claquer la perf?
Ah non, alors pas du tout, parce que j'arrive carrément par la petite porte, et j'ai surtout envie, alors je vais donner le meilleur de moi-même, parce que alors ce serait ne pas donner le meilleur de soi-même quand on a un dossard, une plaque de cadre ou quoi que ce soit, déjà c'est manquer de respect envers l'organisateur qui s'est cassé le cul à monter un truc. Donc quand tu participes et qu'il y a peut-être d'autres gens qui auraient bien aimé le faire et qui ont été mis sur la touche parce qu'ils s'y sont pris trop tard, parce qu'ils n'ont pas pu avoir une place, et que le premier des respects quand on arrive sur une course avec un dossard, pour soi-même et pour l'organisateur, pour tout ce qui a été mis en place, pour les bénévoles et compagnie, c'est de donner le meilleur de soi-même. C'est la moindre des choses. Et pour tes amis et pour toutes les personnes qui suivent de près ou de loin, alors moi peut-être plus que d'autres parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, envers moi-même, d'avoir une certaine fierté, d'avoir donné le meilleur de soi-même, peu importe le résultat, envers l'organisateur de dire j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai essayé de donner sur le parcours que tu vas proposer, de donner le meilleur de moi, et c'est bien le but. Sinon, il n'y a aucun intérêt de prendre un dossard, tu vas faire ta balade avec tes potes. C'est manquer de respect envers tout ça. Donc je donne le meilleur de moi-même. Le résultat, il sera ce qu'il sera, mais j'aurais donné le meilleur de moi-même, j'aurais rien à me reprocher, et surtout, j'espère qu'il va m'arriver un maximum d'embrouilles, parce que finalement, le vélo par rapport à la course à pied, c'est quand même bourré d'embrouilles. Dans quelle étape psychologique je vais me retrouver si je crève? Est-ce que je vais paniquer? Est-ce que je vais faire vite? Est-ce que je vais réussir à garder mon calme ou pas? Comment ça va se faire quand je vais me rater? Comment ça va se faire si mon GPS, il perd de batterie? Comment ça se faire? Tous les petits problèmes. Comment ça va se passer quand j'ai plus de flotte et que... Bon, ça, c'est pas trop un problème, parce que comment ça va se passer pour le ravitaillement dans les supérettes, les machins, alors je sais que je vais pas trop m'arrêter ou j'aime plutôt être actif. Comment ça va se passer quand je vais choisir de moi je prévois de faire, je sais pas, 2-3 pauses de 10 minutes, un quart d'heure pour dormir. Après, il va y avoir des pauses liées peut-être à une pâtisserie, à un café, à une supérette où je vais être obligé d'attendre derrière une mamie. Comment je vais réagir? Est-ce que je vais casser la gueule à tout le monde là-dedans parce que j'ai envie de remonter sur le vélo? Enfin, et j'ai envie qu'il m'arrive des problèmes liés à la mécanique, liés au, et comment je les gère et comment je les anticipe et comment j'ai à manger après cet effort, après cet événement, pour pouvoir après partir au mois d'avril prochain sur le Paris-Dakar en ayant eu un maximum déjà d'expérience entre guillemets. Je pense que sur 850 morts, il y a quand même moyen qu'il en arrive pour pouvoir gérer pour pouvoir gérer les choses une fois sur le Trocadéro et le Paris-Dakar au mois d'avril prochain. Donc effectivement, j'ai envie de revenir avec tout un tas, et puis cerise sur le gâteau, parce que j'ai quand même l'impression que c'est une belle bande de gens plus intéressants les uns que les autres, qu'il y a une espèce de convivialité, d'entraide et de gens qui ont un fonctionnement qui est un peu ma devise, c'est béret. Ma devise, c'est béret, c'est bon esprit, rigolade, énergie, travail. Et ça, je pense que ça m'a l'air d'être un beau tas de bérets là-dedans. Ça va de l'organisateur qui t'envoie des mails en te demandant ton assurance, que j'ai oublié de lui envoyer, avec des façons de présenter. Axel, la manière dont ça m'a l'air d'être un chouette bonhomme. De voir un peu les vidéos où je vois les... ça m'a l'air d'être une chouette personne. Du premier au dernier, il y a un état d'esprit qui me semble plus que chouette, et je suis très impatient d'aller rencontrer ces personnes qui viennent, qui sont déjà penchés ou qui se penchent dans ce monde entre guillemets, mais ce sport a de beaux jours devant lui, parce que je le sens monter, comme j'ai senti, alors que c'était pas, les gens le voyaient pas vraiment venir comme ça, ce que pouvait connaître le trail et l'ultra trail dans les années 2005-2006. Eh ben, j'ai l'impression que le phénomène Biking Man, ou le phénomène de compétition comme ça au long cours, est exactement à peu près à la même époque. Et je donne pas ma chair de la peau de ce sport-là pour que dans 5-6 ans, ce soit un sport qui est le plus que le vent en poupe, et qu'on voit débouler des niveaux de performance, et que c'est vraiment une grande mouvance que ce sport est en train d'arriver sur le marché de l'outdoor, hein, si je peux parler comme ça, quoi. Voilà.
Bon, c'est déjà le cas, hein. On voit certaines courses, on voit des niveaux de réalisation, ouais. Assez dingue, et la fête du slip, c'est fini depuis un petit peu de temps déjà. On voit des mecs super préparés et super au point mentalement. Et ils sont pas là pour faire des selfies, ils sont pas là pour s'arrêter une heure et demie au resto à bouffer des moules. C'est fini la fête du slip, hein. Pour certains. Alors, après, il y en a pour qui c'est, et ils ont bien raison d'ailleurs. Chacun.
Mais attention, aucune critique.
Oh là non, ça par contre.
D'ailleurs, Et d'ailleurs, c'est bien souvent avec ceux-là qu'on rigole le plus après la ligne d'arrivée. Alors, ils ont intérêt à rester là parce que j'aime encore bien rigoler. Ouais.
Quand même.
Et surtout, voilà, il y a une expression que j'ai trouvée juste magique sur la rétrospective du Biking Man Corsica l'année dernière. Il y avait un jeune couple là avec une skieuse et puis je crois que lui il était dans le hockey ou je sais plus quoi. On n'est pas là pour acheter des terrains. De toute façon, c'est trop cher. Donc c'est chouette ça. J'ai trouvé ça juste génial.
Stéphane. Ouais. J'allais te proposer un truc, mais je pense que c'est pas la peine, vu que ça t'obligerait à avoir la tête ailleurs que ton corps. Donc, je pense qu'on rediscutera de ton Biking Man après, quelques jours après, tout de suite, pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Tu espères
qu'il
mercredi
après-midi.
Ouais, on verra. On verra. On verra. Bah, tu sais, j'ai déjà fait un épisode, je crois, avec Adrien Lichty, genre 6 heures après qu'il ait passé la ligne d'arrivée sur l'Atlas.
Parce que si je suis arrivé mercredi après-midi, c'est plus qu'incroyable. Hein, donc.
Ah ben, je sais pas quand est le départ. Donc,
On part lundi matin. On part lundi matin à 5 heures du matin. Je rigole,
mercredi,
mais effectivement.
Jeudi. On s'appelle jeudi après-midi alors. Voilà. Donc on fera ça
avec grand plaisir.
On va conclure là-dessus parce que il faut que j'aille rouler, que j'aille manger d'abord et j'ai super envie de pisser. Donc je vais devoir y aller, je vais te laisser pour ta minute de solitude. Donc je vais poser mon micro et je te laisse faire passer le message de ton choix. En attendant, merci beaucoup pour le temps consacré. Bonne chance. Et malgré tout, bonne chance pour le Biking Man et bonne chance pour garder ton calme au cours des nombreuses galères qui vont t'arriver. Parce que c'est pas que je te souhaite du mal, mais malheureusement ça arrive à tout le monde un jour ou l'autre, il faut vivre avec. Donc ça va t'arriver et j'ai hâte de savoir comment tu vas gérer tout ça. Donc bonne chance et à très bientôt et merci encore. Salut Stéphane.
Eh ben merci à toi. Et ben voilà, me voilà parti pour la minute de solitude. Alors les solitudes, je les connais bien parce que après avoir passé 2 mois et demi sur l'Atlantique à ramer en solitude, finalement passer une minute c'est rien du tout et je suis bien content d'avoir passé ce moment. Alors peut-être aussi un peu de solitude parce que j'ai quand même l'impression d'avoir plus parlé que Richard, j'en suis vraiment désolé, j'espère d'ailleurs ne pas vous avoir trop saoulé, mais effectivement le cœur de mon activité n'est pas forcément lié qu'à la physique et qu'à la gestuelle et que effectivement au sport comme on peut l'imaginer, c'est tout un travail plutôt cérébral et c'est un travail que j'adore raconter, que j'adore faire vivre. J'en suis passionné, donc c'est vraiment le cœur de mon activité. Voilà. Donc, je vais pas non plus vous saouler beaucoup plus longtemps que ça. Je souhaite aussi à toutes les personnes qui suivent ce genre de podcast, comme moi je peux le faire au travers de tous les podcasts concernant ce sujet, parce que ça me plaît, d'avoir à chaque fois pu tirer un petit quelque chose, une petite idée qui me permette à moi demain d'être meilleur grâce à toutes les personnes qui sont passées sur ce podcast de Richard, et j'espère qu'il en sera de même, d'avoir pu peut-être apporter un petit détail qui vous permettra de dire que demain vous êtes meilleur, et si c'est grâce à moi, et j'en suis super ravi, super content, comme moi j'ai pu l'être grâce à vous tous qui êtes passés sur le podcast, mais comme à vous tous que je rencontre au quotidien et qui apportent de l'eau à mon moulin. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, en souhaitant à toutes et tous une bonne recherche personnelle au travers de ce sport ou au travers de ses activités. Et puis, prenez soin de vous. La grande bise et pas de bêtises.